kwe mishipa nyama na ngozi, watiwe puzi viongozi waishie. Viongozi wa Kongo waingie ulimwengu wa roho, kama tai waruke juu sana, wapande juu ya dunia ya vitu vinavyoonekana, macho yao yaone mbali sana, dhahabu na diama, wazuie kuingia Kongo mpya. Ufungue makaburi yetu viongozi, utupandishe toka makaburi yetu, ufua uongozi kwa inchi yetu Mungu, tuokopewe na tujenge taifa, uone wivu kwa ajili ya jina lako tulilochafua duniani kote, utukuze jina lako kufanya Kongo mpya, mataifa wataona na kushangaa. Utukuze jina lako kufanya Kongo mpya, mataifa wakujue wewe ni Bwana. Madola na dhahabu, viongozi wetu waone taifa, tusikue tena wenye kukosa, wakati wengine wamepata zaidi, mataifa watakaposikia na waulize, nani Mungu wa Kongo? Mungu Bwana wa majeshi atafanya neno alilosema, Mungu wa majeshi atafanya neno alilosema.
Kongo mpya ni Kongo ya kuongozwa na watu walio kwa ngazi ya juu kiroho, ni viongozi wenye kuruka juu kama tai au egle kwa kimombo, wawe na jicho kuona mbali kule kwenye wajuiser, wapenda raha, wapapa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya tai. Sio kila honorable anafaa kuongoza, sababu walio wengi wanashindwa kuruka kwa Kongo mpya, wanabeba magunia za kolta.
This lesson in Swahili is dedicated to all you beautiful people around the world. We say
auditrices, auditeurs de Radio Mandeléo, bon dimanche, bonjour, bienvenue pour suivre l'émission Paix Développement. Vous nous écoutez à Bukavu, dans les autres villes de la province du Sud Kivu, dans les 8 territoires qui forment la province du Sud Kivu. Merci pour l'attention que vous nous démontrez. 88.8, 91.7. Vous nous suivez également en dehors sur internet via le www.radiomandeleo.org. Merci pour votre attention au menu de cette émission. Aux États-Unis, vous le savez, Donald Trump a remporté la présidentielle mardi 5 novembre dernier. Le républicain s'offre un deuxième mandat à la Maison-Blanche, battant ainsi sa concurrente Kamala Harris. Un renversement de pouvoir qui passe encore chez les républicains réputés pour leur nationalisme, opposé justement au mondialisme des démocrates. Cette élection américaine est bien sûr suivie partout dans le monde, notamment sur le continent. Sinon, africain. Les réactions affluent. Il y a toutefois nombreuses réactions sur tout le continent africain. Des félicitations à Donald Trump, du président nigérien Bola Tinubu, du premier ministre éthiopien, du président burundais Evariste Ndayishimiye, et à Kinshasa. C'est le président de la République Félix Tshisekedi qui a salué cette élection en parlant d'une belle victoire. Le chef de l'État congolais s'est dit prêt à collaborer avec le nouveau président américain élu et en renforcer ce qu'il qualifie de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis. Des pays qui, selon lui, entretiennent déjà des bonnes relations amicales et de coopération. Que va changer pour l'Afrique ce nouveau mandat? Que retenir de la politique africaine lors de son premier mandat? Quelle place peut jouer la victoire de Donald Trump pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs et dans l'Est de la RDC? Nous en parlons ce dimanche dans Paix et Développement en deuxième partie. Mais bien avant, le mercredi 13 novembre, les avenues concernées par le pavage dans le cadre du projet Step 2 seront remis officiellement au gouvernement pour une inauguration officielle. Dans la foulée, les travaux pour 5 autres kilomètres seront lancés dans d'autres avenues de la ville de Bukavu. Avant la remise de ces ouvrages, quelle évaluation faire de la qualité des travaux effectués? Quelles leçons tirer pour faire mieux à l'avenir? Nous en parlons ce dimanche 10 novembre 2024. Alain Zard assure la mise en œuvre devant ce micro pour la présentation expéditive. No problem. Justement, avant d'évoquer les sujets inscrits à notre menu, nous allons rappeler les informations qui ont marqué l'actualité le long de la semaine. Nous commençons par cette information. Samedi 9 novembre, dans l'archidiocèse de Bukavu, des sources sûres rapportent que le petit séminaire Reine des Apôtres de Mugere, situé dans le territoire de Kabare en province du Sud Kivu, plus de 40 km de la ville de Bukavu, a été attaqué dans la soirée d'hier, samedi 9 novembre, par des hommes en tenue militaire assaillants, hommes qui se sont présentés à ce lieu. 8 militaires lourdement armés ont fait incursion dans ce petit séminaire jusqu'à rejoindre les prêtres au réfectoire et les ligoter. Malgré les coups des balles, tous les prêtres sont en vie avec leurs petits séminaristes, avons appris des sources sur place. Nous avons tenté ce matin de joindre les responsables du petit séminaire de Mugere sans succès, mais la nouvelle positive, c'est que malgré les coups des balles, tous les prêtres sont en vie et les enfants, ou disons les petits séminaristes, se retrouvent en bonne santé. Peut-être qu'ils sont juste frappés par le stress et le choc, mais tout se passe dans l'ordre depuis la matinée d'aujourd'hui, apprend-on justement des sources sur place. Nous sommes dans ce studio avec plusieurs invités, mais avant cela, rappelons certaines informations. Des militaires identifiés comme étant de la 114e brigade spéciale des forces armées de la République démocratique du Congo Ce sont justement de la brigade Guépard et d'autres militaires déployés dans la partie nord du territoire de Kabaré sont accusés de plusieurs actes de violation des droits de l'homme et tracasseries contre les habitants, principalement dans le groupement de Bougouré et Irambi Katana. Ceci donc ressort de plusieurs plaintes et des témoignages des victimes de ces actes, éléments récoltés à l'occasion des différentes descentes des reporters et correspondants de Radio Mandela dans cette partie du territoire de Kabaré. Il ressort des monitorings réalisés par Radio Mandeléo qu'en plus de ces mers de terreur, à l'occasion des patrouilles ou déplacements incontrôlés, ces éléments, en plus justement de ces mers de terreur, à l'occasion des patrouilles, ces éléments extorquent des téléphones aux passants, abusent des jeunes filles en se servant de leur position et administrent des coups, voire des tortures à l'endroit des paisibles citoyens. Parmi les cas flagrants figurent l'assassinat de M. Amafou Bakoulikira et Idelfonse dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2024 dans le groupement de Bougouré, la mort de deux personnes à Kaungu et Tchegera en plus de dizaines de blessés dans le groupement d'Irambi Katana depuis l'arrivée de ces éléments. Bien plus, explique notre source, ces militaires sont en train de se retrouver dans des maisons de vente de boissons fortement alcoolisées à des heures tardives en étant en détention d'armes, mettant ainsi les habitants dans un climat de terreur. Ceux qui tentent de dénoncer sont victimes. Ils sont donc victimes de cet état de choses. Dans d'autres villages comme Kabouchoua, Karungu et Mabingu, groupement d'Irambi Katana, l'on rapporte la présence des personnes armées, notamment celles d'expression rwandaise, qui font une exploitation illicite et à grande échelle des ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Nous parlons infrastructure à présent. Lancé depuis 3 mois, les travaux de construction du pont sur la route nationale numéro 2 à Bougabo, juste à l'entrée de l'Institut supérieur de développement rural, ISDER, tarde toujours à s'achever malgré plusieurs annonces. En dépit de rassurances faites par l'autorité des tutelles qui avait donné un délai de 3 semaines pour achever ces travaux, la société congolaise de construction semble évoluer à pas de tortue. Pour l'instant, les usagers du tronçon allant de la place d'Indépendance jusqu'à Thierry et Kadutu en passant par le lycée doivent prendre leur mal en patience et s'habituer à la souffrance leur imposée à cet endroit. En effet, les élèves, les étudiants et autres usagers sont obligés de traverser en mettant leurs pieds sur des pierres posées dans l'eau et lorsqu'il a plu, se faire transporter moyennant paiement d'une somme d'argent, alors que les véhicules sont obligés de contourner sur avenue industrielle puis vers l'ancienne coopérative. Alors que les habitants attendaient l'achèvement de ce pont, la société congolaise de construction a choisi d'ouvrir un autre chantier, précisément sur le pont, juste après le lycée Wima. Ici aussi, la vitesse des travaux ne rassure pas les usagers. Rencontré sur le chantier, le directeur technique de la société congolaise de construction le jeudi dernier a précisé qu'il ne pouvait pas répondre aux questions de Radio Mandela. D'autres techniciens de cette société ont à ce sujet ont réservé une fin de non-recevoir aux questions leur adressées. Donc le calvaire se poursuit sur ce tronçon routier. Par ailleurs, sur la RND toujours, aucun véhicule n'arrive dans la ville de Kamituga depuis plusieurs mois et à Mwenga Centre depuis près d'une semaine. Ceci suite à l'état de délabrement très avancé de la route nationale numéro 2 Bukavu-Mwenga, où l'on retrouve des dizaines de bourbiers en plus de ponts effondrés et ou délabrés. À Mwenga Centre, comme dans la ville de Kamituga, la souffrance des habitants n'est fait qu'augmenter, avec notamment la hausse des prix de produits de première nécessité et même dans des entités où sont bloqués des centaines de véhicules. Les endroits les plus impraticables sur cette route sont entre autres Munzele, Kibumba, Bilembo et Kalambi, explique notre correspondant dans le territoire de Mwenga. À ces endroits, des gros bourbiers se sont créés au milieu de la route jusqu'à la rendre impraticable. Ici, plusieurs camions transportant des marchandises et des denrées de première nécessité sont embourbés, désespérés. Les chauffeurs et leurs assistants tentent en vain de creuser à la main pour ouvrir la route à la circulation. D'autres ont érigé des maisonnettes de fortune où ils passent la nuit en attendant le beau temps. Actuellement, le prix du transport par voiture et par moto entre la ville de Bukavu et Kalambi, lieu où le parking a été placé, varie entre 45 et 50 000 francs congolais par passager et selon l'humeur des chauffeurs à ce jour, des dizaines de kilos de marchandises arrivent étant déjà avariées et les peu qui arrivent sont souvent vendus à un prix exorbitant. C'est le cas d'un verre de sel qui se négocie à 500 francs, une bouteille de sucre à 5 000 francs congolais et une bière Primus à 7 500 francs congolais, explique la société civile urbaine de Kamituga. Lucky Mukamba Muyengo, président de l'OCS Civil Force Vive, bureau de coordination urbaine de Kamituga, appelle donc les autorités à tous les niveaux de songer à la souffrance que traversent les usagers de cette route, surtout en cette période pluvieuse. Les usagers de la route à soins numéro 2 attendent toujours la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État qui, en décembre 2023, avait promis que cette route allait être réhabilitée et goudronnée dans son entièreté. Voilà, nous allons recevoir certains intervenants en ce début de mission. Tout d'abord, Napoléon Kisala, il est chef de division provinciale de la communication et médias au sud Kivu. Monsieur Napoléon Kisala, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Tout d'abord, ce communiqué, conformément au calendrier des élections du comité provincial de la Task Force Communication du sud Kivu, publié le 30 octobre 2024, la division provinciale de la communication et médias du Sud Kivu, qui assume la coordination provinciale de la dite structure issue de la coopération UNICEF-RDC, informe au point focal des organisations membres de celle-ci de la tenue de l'Assemblée générale élective jour mardi 12 novembre, heure 10h, lieu salle de l'auditorium de la femme à la botte. Cordial bienvenue à toutes et à tous. Fait à Bukavu, le 8 novembre 2024, le chef de division provinciale de la communication et médias, M. Napoléon Kisala, signe ce communiqué. Monsieur Napoléon, dans un premier temps, il s'agit justement de cette assemblée générale élective, mais d'entrée des jeux, qu'entendez-vous par Task Force Communication au Sud Kivu?
La Task Force Communication au Sud Kivu, c'est une structure ici de la coopération UNICEF-RDC. Vous savez, dans les États, dans le monde entier, ont des coopérations bilatérales et multilatérales. Et le gouvernement congolais a des coopérations multilatérales. Dans ces coopérations multilatérales, l'UNICEF vient en appui au gouvernement congolais et il intervient dans les différents secteurs. Et dans le secteur des communications, l'UNICEF appuie le gouvernement congolais. Et comme vous le savez très bien, le secteur des communications est géré par le ministère de la communication, médias et porte-parole du gouvernement. Et c'est-à-dire qu'au niveau national, cette structure est chapeautée par le ministère de la communication et médias. Et dans les différentes provinces, cette structure est coordonnée par les divisions provinciales des communications et médias. Et le cas du Sud Kivu, c'est la division que je gère.
Avant de parler de la mission de la Task Force, l'appui de l'UNICEF à l'endroit du secteur de médias est de quelle nature?
Ça entre aussi dans le cadre de la communication. Parce que ce ministère est géré par eux-mêmes, ce secteur est géré par le même ministère qui est communication et médias. Lorsque vous intervenez dans les médias, c'est la communication. C'est dans ce cadre-là que l'UNICEF appuie les médias.
Voilà. La Task Force Communication du Sud Kivu, elle se fixe quelle prérogative et là, quelle mission dans son existence, en fait?
Bon, nous devons d'abord parler que cette structure a comme document juridique, c'est-à-dire qui fixe son organisation et son fonctionnement, ce document est appelé terme de référence. Et dans le terme de référence, la mission de la Task Force n'est autre que atteindre les objectifs en matière de communication et de participation communautaire. C'est-à-dire, nous avons comme mission la sensibilisation communautaire. Et comme vous venez, nous avons la sensibilisation avec la campagne de la vaccination Mpox. Vous savez, avec toutes les rumeurs qui se passent, oh, Itaou Abatou, oh, Itafa Yves, c'est ça la mission de la Task Force. Aller dans les communautés, sensibiliser notre population afin qu'ils aient un comportement positif.
Et quelles sont les parties prenantes à la task force communication et médias? Parce que dans votre communiqué, vous avez évoqué les points focaux. Paraît-il que ce sont les points focaux qui participeront à cette assemblée générale. Quelles sont les parties prenantes au sein de la structure task force?
Je suis ravi, en face de moi, je vois le chef de quartier de Dendere, oui. Et je crois qu'il va se rappeler, il n'y a pas deux semaines, je l'ai contacté au téléphone pour passer à la division, parce que dans les archives, j'ai trouvé qu'il était membre de cette structure. Alors, par là des points focaux, les points focaux, ce sont les mandatés des structures qui composent la task force. La task force est composée de deux sortes de structures. Nous avons les services étatiques qui fonctionnent avec, qui bénéficient de subsides de l'UNICEF. Et nous avons les organisations membres de la société civile, mais aussi les acteurs sociaux, c'est-à-dire les faiseurs d'opinion. C'est ainsi que nous avons en face de moi les chefs de quartier, d'Ndendere, même de Panzi, de Bagira. Nous avons les différents responsables, chefs de religieux, parce que ce sont eux, lorsqu'ils communiquent avec la population, les messages passent facilement et ils sont capables de convaincre la population. Ce sont maintenant ces mandatés-là, c'est-à-dire les gens qui sont mandatés par les structures, qui sont appelés les points focaux. Et ce sont ces points focaux qui sont les membres de la task force. Et comme nous sommes dans le contexte des élections, ce sont eux qui seront les électeurs aux élections du 12-11-2024 dans la salle auditorium de la femme du Sud Kivu.
Et les candidats, c'est toujours le point focaux?
Oui, les candidats viennent toujours des points focaux.
Voilà, merci beaucoup pour cette communication. L'assemblée est prévue mardi 12 à partir de 10h. Elle sera supervisée par vous.
Bon, normalement, la task force communication a comme d'abord siège au Sud Kivu, la division provinciale de la communication et médias, et c'est ce service qui en est la CENI. C'est ce service qui organise les élections. Mais pour raison de transparence et d'équité, j'ai invité le bureau de la coordination de la société civile et j'ai aussi fait appel à une organisation non gouvernementale de développement local. Et ce sont ces trois services qui vont superviser les élections pour assurer les urnes des uns et des autres.
Les organes de communication et d'information, les radios, les médias, sont-ils membres de la task force également?
Oui, ils sont membres. Parce que là, nous avons UNPC, nous avons un point focal de RATECO. D'ailleurs, je vous informe que nous avons la candidate au poste de vice-rapporteur qui est le point focal de l'UNPC.
Merci beaucoup. Rendez-vous pris le mardi à partir de 10h00 à l'auditorium de la femme. Quel tout dernier message adressez-vous?
Bon, le dernier message que j'adresse à tous les points focaux qui sont des électeurs, de participer massivement à cette activité pour d'abord s'approprier, parce que c'est leur activité, mais de deux, pour légitimer les comités qui vont entrer en fonction. Parce que il y a 5 ans, on a vu que les comités étaient torpillés, la structure était torpillée, mais avec l'implication de l'autorité de tutelle, qui est le ministre provincial en charge de la communication et médias, il a remis toutes les compétences révolues au fonctionnement et à l'organisation de cette structure à la division provinciale de la communication et médias du Sud Kivu, qui représente d'office le ministère et qui chapeaute. C'est le ministère qui chapeaute cette structure au niveau national.
Merci beaucoup, monsieur le chef de division. Nous vous souhaitons un excellent dimanche et surtout bonne préparation de cette activité prévue le mardi prochain à partir de 10h à l'auditorium de la femme à la botte en commune d'Ibanda. Monsieur le chef de division, nous vous libérons. Pour l'instant, nous avons peint un tableau sombre de la situation des routes, notamment la route nationale numéro 2. Tronçon compris entre Bukavu, Mwenga, en passant par le territoire de Walungu, mais il y a quand même dans le centre-ville une note positive. En fait, le mercredi 13 novembre, les avenues concernées par le PAVA dans le cadre du projet Step 2 seront remis officiellement au gouvernement pour une inauguration. Dans la foulée, les travaux pour 5 autres kilomètres seront lancés dans d'autres avenues de la ville de Bukavu. Avant la remise de ces ouvrages, évaluation faire de la qualité des travaux effectués, quelles leçons tirer pour faire mieux à l'avenir. Nous en parlons avec le pasteur Miga Bunyagaza, qui a été introduit par le chef de division. Il est le coordonnateur de la synergie des chefs de quartier de la ville de Bukavu. Pasteur Miga Bunyagaza, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour Expedi, bonjour à tous les débatteurs, bonjour aux auditeurs, auditrices de la radio Mendeleu et à toute la population de notre quartier Nende.
Maître Faustin Banyanga, il est communicateur au ministère des infrastructures, travaux publics et reconstruction. Maître Faustin, bonjour et bienvenue.
Bonjour cher Expedi, bonjour à tous ces milliers d'auditeurs qui nous prêtent oreille attentive sur Radio Mendeleu. Bonjour à tous les co-débatteurs présents dans ces studios.
Monsieur Idé Bakoulou Magadjou, il est analyste. Monsieur Idé, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les débatteurs qui sont sur le plateau et à tous les auditeurs de la Radio Mendeleu.
Amos Bissimoa, il est de l'Obapège. Amos, bonjour.
Bonjour cher Expedi, je profite de ce micro pour saluer ou souhaiter bon dimanche aux débatteurs présents déjà dans ce studio. Je salue toute la population congolaise qui suit Radio Mendeleu. Je continue à donner pôle au peuple congolais par rapport à la situation que traverse le pays. Je salue en fait tous les militantes et militants du grand mouvement Sauva PGRDC. Je tiens à rappeler que ce mouvement réunit au sein de la synergie des mouvements citoyens du Djenge Congo.
Mick Moutiki, il est président du cadre de concertation de la Société civile du Sud Kivu. Mick, bonjour, bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les débatteurs ici au studio, ainsi qu'aux auditeurs, auditrices de la radio Mindeleo.
Maître Faustin Banyanga, hier samedi, le ministère des infrastructures et travaux publics a organisé une itinérance dans les avenues concernées par ce projet de pavage. Je cite les premières avenues retenues, l'avenue de l'Atné, l'avenue Kassai, l'avenue des Ouvriers, l'avenue Mater Dei qui va vers la paroisse Mater Dei de Mungu, avenue de la Montagne et l'avenue Kindu. Quel constat avez-vous effectué sur le chantier?
Merci beaucoup, cher Expedi, de la parole une fois de plus nous accorder. Mais bien avant d'aborder cet aspect, permettez, comme vous l'avez annoncé dans votre note introductive, vous avez parlé de la RND, précisément les bourbiers qui se remarquent sur la RND. Et vous êtes revenu également sur le pont qui est en train d'être construit par la société Sokok au niveau de l'entrée Isder. Alors, quelques précisions, détails seraient importantes pour vraiment éclairer l'opinion quant à ce qui concerne les ponts entrée Isder. La société Sokok est à pied d'œuvre et c'est là depuis un certain moment parce que c'est elle qui exécute les travaux. Et à ce niveau, nous pouvons éclairer la population que la construction du pont est faite en béton armé. Et cela nécessite sa maturité, c'est-à-dire en Swahili, ikauke, pour que la circulation soit vraiment la plus fluide que possible et ne pas endommager les ponts. On ne doit pas vouloir une chose et son contraire. Lorsqu'on veut les choses d'une forte durabilité, nous devons dans tous les cas avoir un minimum de patience pour que les choses se passent dans un état de sérénité. Néanmoins, le ministre, arrivant à Bukavu de ce vendredi 1er novembre, il a invité à son cabinet le directeur de Sokok qui va se présenter demain lundi à son cabinet de travail avant de faire Monzele dans le territoire de Mwenga pour qu'il lui donne des explications claires et précises sur la fin de ces travaux qui en tout cas peinent à finir. Donc sur cet aspect, la population doit patienter. De demain, le ministre aura des précisions quant à ce qui concerne les finitions de cet endroit-là entre Isder.
Il ne s'agit pas seulement de ce pont, il y a un autre au-dessus du lycée Ouima, et quand il pleut, c'est pratiquement le calvaire pour ceux qui empruntent la route, ceux qui se dirigent vers les universités telles que l'Université catholique de Bukavu, l'Université officielle de Bukavu, l'Institut supérieur des techniques médicales, SOSA, mais qui vont vers Walungu. C'est vraiment un parcours de combattant pour les gens qui traversent ce passage-là.
Ce que j'ai dit, un peu de patience, parce que la volonté de l'autorité est là pour que les choses se passent très bien. On ne doit pas vouloir une chose et son contraire, c'est-à-dire quand on veut la construction d'une chose, on doit aussi accorder du temps pour que ça atteigne la maturité, que ça atteigne la fin. Et donc, on doit accepter de prendre la cunine. Lorsqu'on veut la construction, on doit pas s'attendre à ce que ça finisse en un claquement de doigts, en une journée. Il faut un peu de patience. Parce qu'à un certain moment, on verra, comme ceux qui ont patienté, en ce qui concerne les pavés, nous allons y revenir. Ça fait plus de 5 mois, les pavés sont en pleine construction.
Le problème, ce sont justement les délais, parce que les délais annoncés à chaque prise de parole d'une autorité sont moyennement courts, mais l'exécution prend beaucoup de temps, que ce soit sur la pente au-dessus du lycée, oui, mais comme ce nouveau chantier, le pont qui est situé juste à l'entrée de l'Isder, on constate que ça prend beaucoup de temps.
Oui.
Lors d'une interview que nous avons réalisée avec le ministre, il a parlé d'un délai de 3 semaines, mais nous sommes largement... Oui,
ce sont les experts qui parlent, parce que les experts des SOCOC, c'est eux qui doivent éclairer la lanterne de l'autorité. Et l'autorité doit suffisamment communiquer par rapport à ce que disent les experts. Mais néanmoins, je vous assure que le ministre Georges Kibonge ne dort pas pour que le pont lycée entrée Isder soit praticable dans l'urgence. Et rassurez-vous que dans peu de temps, tout sera au clair.
Est-ce que vous pensez que l'enveloppe qui est destinée à à la réhabilitation de ces infrastructures provient essentiellement du niveau provincial ou ça coince également au niveau du déblocage des fonds pour cette réhabilitation?
En tout cas, sur l'aspect SOCOC, au niveau de l'entrée Isder, c'est vraiment le gouvernement provincial qui se bat pour que les choses aillent de plus en plus rapidement. Alors, par rapport à la déviation, vous saviez qu'il y a eu un souci de la déviation, le ministre en avait parlé. On voulait envisager une déviation sur une clôture, une concession privée de l'autre côté, mais il y avait un souci, les particuliers s'étaient opposés à ce que la déviation soit dans leur concession, parce qu'il y avait un conflit déjà parcellaire au niveau des tribunaux, et le ministre ne voulait pas se mêler dans une affaire judiciaire, et il a estimé qu'il doit laisser les particuliers finir leur guéguerre au niveau des cours et tribunaux, et c'est là ce qui a bloqué tout à fait la déviation, en attendant les finissages de construction de ces ponts. Allons maintenant sur la RND. Quant à ce qui concerne la RND, de ce mardi, comme je l'ai annoncé, de ce mardi, le ministre Georges Kibonge, avec une forte délégation, va se rendre à Monzélé pour faire l'étude de faisabilité, comment dans l'urgence on peut construire ces bourbiers et permettre à ce que la circulation soit fluide. Donc tout est déjà en marche, tout est en jeu pour que la délégation se dirige vers Monzélé et Mwenga pour la construction de ces bourbiers.
Voilà, c'est pas le sujet au menu, MIC, comme acteur social, justement responsable ou président du cadre de concertation. Vous avez en 30 secondes un commentaire.
À Monzélé et dans tout le Mwenga, une de nos fêtières, qu'on appelle SOCIL, Société Civile Nouvel Espoir, a mis sur pied une approche, parce que ce qui crée des bourbiers, en réalité il y a la pluie, mais il y a des engins motorisés de Chinois, donc de Poclet, donc toutes sortes d'engins, qui passent, qui détruisent la route, et vont exploiter l'or, et quand l'or sort du Mwenga, il vient par avion.
Et on a, la société civile, donc le cadre de concertation à travers notre fêtière Société Civile Nouvelle Espoir, exige, il y a une sorte de violence, comment je vais dire, une sorte de violence pacifique, exigeant à tout engin de Chinois avant de passer, de faire en sorte qu'il y ait au moins un bourbier qui est entamé. Mais ce sont des solutions à l'emporte-pièce. Donc, combien de fois on ne nous a pas annoncé à grande pompe, même des inaugurations avec des hautes autorités du pays, que cette route va être finalement faite en vain. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Rentrons dans la question des pavés. J'habite l'avenue Kindou.
On n'est pas encore à l'étape des pavés. Nous y arrivons dans quelques minutes. Mick Moutiki, prenez votre mal en patience.
Merci,
je reviendrai
beaucoup.
Vers vous.
Merci beaucoup.
Dans peu de temps. Amos, en 30 secondes.
Merci pour la parole accordée. Je venais de suivre avec intérêt le conseil au ministère des Travaux publics.
Les communicateurs.
Les communicateurs, oui. Je pensais au conseiller.
Oh, c'est un conseiller.
Ouais, merci. En communication, justement.
Mais il est revenu, plusieurs fois sur le mot, la population doit patienter. Jusqu'à quand? Soyons sérieux. Vous-même, vous avez dit que nous avons suivi les discours du gouverneur et le ministre des Travaux publics au stade, quand ils ont parlé de 3 semaines. Tout au plus.
Pour la déviation.
Pour la déviation, justement.
Pour la déviation, oui, même.
À l'entrée des listes d'air.
Tout à fait. Mais si vous y passez aujourd'hui, et vous l'avez dit, la population souffre. Pour faire Chiriri aujourd'hui, faire Kadutu, on doit contourner vers l'industriel. Et cela impacte sur les prix du transport en commun. Je me demande finalement, nous sommes dans quoi? Il a parlé de la société Secoq. Et dans la planification d'un projet, il y a la question du timing, le temps. La plupart des fois, quand nos autorités nous disent les travaux prendront 2 mois, il faut s'attendre à 2 ans. Et je me demande, est-ce que c'est la société Soko qui n'a pas d'experts à la hauteur de leurs tâches, ou si ce sont nos dirigeants qui dirigent dans le populisme et qui viennent tromper la population? Avec ces travaux, ça va prendre 2 mois, par exemple. Mais à la lire où vont les choses, par la suite, la population se rend compte que, au lieu de 2 mois, on va à peine à peu près 2 ans. Finalement, nous avons quel genre de dirigeants? Je voudrais savoir, partout où on invite la société Secoq, ce n'est pas pour m'attaquer à cette société. On a toujours remarqué une lenteur qui ne dit pas son nom dans leur exécution des travaux. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sociétés qui devraient exécuter ce genre de travaux dans un temps raisonnable, mais aussi la qualité des travaux?
Merci.
Où il y a question de copes, comme le gouverneur l'a dit. Est-ce que nous sommes à ce stade-là?
Merci beaucoup.
D'où et ne tiennent pas compte de la souffrance de la population, malheureusement. Nous pensons qu'on devrait arrêter avec cette manière de nous diriger.
La question, merci. Comment merci. On adjudique ces machins, l'adjudication? Qu'est-ce qui est écrit sur le pancarte?
Voilà.
Les travaux,
la plupart,
c'est dans les cahiers de charges.
Merci.
Ils parlent de 2 mois, 3 mois, mais par la suite, on constate que les travaux vont même à 1 année.
Merci à moi.
Je pense qu'on n'a pas besoin de tels dirigeants.
Je m'approprie.
Il faut que les choses changent.
Je m'approprie vos questions.
Il ne faut pas chasser les
dirigeants.
Je n'ai pas de les chasser, mais
je les oriente.
Et j'ai tenu de leur médiocrité.
S'il vous plaît, Amos, utilisez un langage courtois. Nous échangeons. Pour donner des perspectives et tout le reste, ça vaut vraiment pas la peine de s'attaquer à des individus.
Je m'approprie
vos questions et je les dirige à M. Idé Bakoulou en analyste. À votre avis, M. Idé Bakoulou, à quel niveau se situe le souci? Est-ce que c'est un souci de financement des projets, d'exécution des travaux, ou c'est peut-être l'inefficacité des entreprises d'exécution des travaux?
Tout à fait.
Bon, merci. Je ne sais pas pourquoi vous dirigez ces questions vers moi. Mais bon...
Vous êtes acteur sociopolitique, en fait.
Oui, en fait, aussi, je peux dire que j'ai eu une expérience dans cela.
Justement.
La plupart des sociétés qui exécutent les travaux ici sont des sociétés qui sont à mesure de les faire. Ce qui cloche souvent, c'est que les moyens ne suivent pas. Ces sociétés-là ont vraiment hâte et ils ont besoin de finir vite les travaux qu'ils font pour qu'ils aillent dans d'autres chantiers. Et quand une société sur un pont qui devrait faire 3 mois fait 6 mois,
une année même,
un, la société, donc, elle est obligée chaque fois de refaire les travaux. Donc, la société, en tout cas, ne se retrouve pas dans ses frais quand, quand on allonge le délai. Et c'est souvent les moyens qui font défaut, mais les sociétés, dans la plupart des fois, ce sont des sociétés qui sont capables. On a parlé ici de... Bon, je pensais que le pont-là était financé par le pouvoir central.
Exactement, c'était juste une omission. C'est le pouvoir central.
Voilà. Ouais. C'est
le pont de l'ISDR, de l'ISDR, l'entrée d'air.
Oui, c'est
ça, c'est la RND.
C'est la RND numéro 2. Oui, exactement. Oui, notre ami, le ministre des Travaux, le ministre provincial des Travaux publics, appellera bien son coq, mais il n'aura pas de solution.
Quoi qu'il fasse.
Je ne crois pas que le ministre provincial ait des solutions dans un problème de pont en construction avec le fonds du pouvoir central. Donc, il va l'inviter, vous l'avez invité, vous-même vous avez fourni des efforts pour entrer en contact avec la société. Vous nous avez dit ici que ça
n'a pas tenu, ça n'a pas tenu. Mmh.
La société ne veut pas venir discréditer le pouvoir central ici.
Vraiment.
Et même le ministre provincial, je ne vois pas. Même le gouverneur, je ne vois pas. Dans cette province, nous avons une grande expérience. À un certain moment, vous avez vu le gouverneur Tshishambo. Il faisait 3 mois à Kinshasa. Les gens pensaient qu'il était en train de danser ou quoi que ce soit. Non. Le gouverneur Tshishambo a souffert pour que la route ici qui va... de la prison centrale vers... Il a souffert. Il faisait des mois à Kinshasa en train de sillonner dans les bureaux. Et vous connaissez le pouvoir qu'avait le gouverneur Tshishambo sur le pouvoir central à l'époque. Malgré son pouvoir, il peinait. Moi, je me rappelle dans une réunion où je participais à Kinshasa, comment il engueulait. À l'époque, c'était le ministre des Finances, Matata Ponyo. Comment il engueulait, c'est... Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas. Mais il faut absolument... Vous voyez nos routes. Vous voyez Mouhumba. Vous voyez Mouhumba. Ça va bientôt faire combien d'années?
Vraiment.
C'est maintenant 6 ans. C'est un projet qui dans le cadre des 100 jours du chef de l'État.
Oui. Donc, crois que le gouvernement provincial, tout ce qu'il peut faire dans ce projet-là, c'est que le gouverneur se lève, qu'il aille à Kinshasa, essayer de bousculer un peu au ministère des Travaux publics. Mais là non plus, c'est pas le ministère des Travaux publics qui sort l'argent, c'est le ministère des Finances. Bon, c'est tout un problème.
On lui dira qu'il faut un problème de la Constitution.
De toute façon, c'est tout un problème. Le système est un peu lourd dans ce cas-là, dans le cas d'espèce, le système est un peu lourd. Malheureusement, on nous dit d'attendre, nous allons attendre, on va voir. Mais bon, le mieux serait qu'on nous dise on va patienter jusqu'à quand.
Tout à fait.
Qu'on nous donne un délai de patience. Parce que, comme on l'a dit, ça a un impact sérieux sur le transport en commun. Même sur. Pas seulement sur le transport en commun. Quand nous contournons Kadutu avec nos véhicules, pour ceux qui en ont, ça fait 2 litres de plus. Donc, ça impacte sur la poche de tout le monde. Donc,
industriel.
Mais j'encourage le gouverneur de province, c'est pas le ministre en tout cas, c'est pas le ministre provincial. Vous allez beau appeler le directeur général de Sokok, bon, vous allez parler en ami, en camarade, peut-être donner une information quelconque, mais ça n'aura aucun impact.
C'est bien entendu. Nous revenons sur la question des pavés. Le mercredi 13 novembre, les avenues concernées seront remis officiellement à l'autorité pour une inauguration. Vous avez inspecté ces chantiers. Je reviens sur cette question. Quel a été le constat dressé quelques jours avant cette remise officielle?
Merci beaucoup. L'excellence Georges Kibonge, le ministre en charge des infrastructures, a fait ce samedi 9 septembre une ronde sur toutes les avenues pavées en pierre volcanique taillée. Vous avez vu, c'est en forme de pierre qui se trouve au nord Kivu. Et donc c'est de la matière en tout cas locale, qui vient de la province voisine du Nord Kivu. Et vous avez constaté que c'est vraiment très beau à voir, très joli d'ailleurs. Et le ministre Georges Kibonge s'est rendu sur toutes ces avenues. Et comme tout citoyen congolais, il regardait avec admiration ces travaux qui rendent trop beau, trop belles même nos avenues. Et le constat qui a été fait, c'est que en grande partie, les travaux sont en phase de finition, c'est-à-dire presque dans toutes les avenues. On a déjà fini avec le pavage, on a fini avec le trottoir, on a fini avec les canalisations. Néanmoins, il y a des remarques qui ont été formulées aux exécutants pour que, surtout en ce qui concerne les canalisations, les individus ont déjà bouché les rigoles. On trouve que les exécutants ont du mal à canaliser l'eau de la manière dont le Belge l'avait prévu, parce que on voit que le Belge avait tout déjà prévu. Il suffisait juste que les choses soient normales, dans leur état normal, pour que l'eau des canalisations de pluie ne pose pas problème. C'est le seul danger que le ministre, en tout cas, a signalé aux exécutants. Les eaux de pluie.
Donc, vous parlez des bouchages des voies d'évacuation des eaux.
Exactement, parce qu'il y a ceux qui sont des voies souterraines et il y a des voies qui sont visiblement perceptibles à l'œil nu, mais en tout cas à voir déjà l'état des lieux de ces pavés, c'est selon même l'ex-fonds social, les travaux sont prêts à être donné pour inauguration à l'État congolais. Donc,
et vous pensez que mercredi, tous les chantiers seront clôturés?
Ça, c'est
selon votre constat, en fait.
Exactement, selon ce que nous avions observé. D'ailleurs, il y a certaines avenues où la circulation est devenue déjà normale. À l'occurrence, l'avenue de l'Athénée, il y a l'avenue Mater Dei, il y a aussi l'avenue Kindu ici, en face de l'auditorat de 12e région. Et donc, c'était des circulations qui ont été temporaires. On a juste permis à ce que les élèves ne puissent pas
connaître
le retard en allant à l'école. Et c'est comme ça que l'autorité, malgré que les travaux n'avaient pas encore complètement fini, avait autorisé à ce qu'il y ait un passage juste pour arranger ça. Et donc, par exemple, sur l'avenue de l'Athénée, vous trouvez une beauté inestimable. Il y a déjà de la pelouse qui est en train d'être plantée, quelques arbres, si ça va être conservé par notre population. Il y a déjà le vernissage des bordures le long des routes. Il y a le lampadaire solaire qui sont déjà implantés. Bref, vous sentez déjà respirer l'air de la ville. Néanmoins, il y a quand même un certain comportement que l'on a constaté dans cette tournée. À l'occurrence, les gens qui font l'entreposage sur le pavé, ils bainent les camions de pierres, de briques, de sable. On sent qu'il y a un certain incivisme dans les chefs de la population. Peut-être que, comme nous sommes avec le cadre de base dans cette émission, ils vont y revenir parce que vraiment ça n'a pas ragaillardi l'autorité qui était en train de faire ces pèlerinages.
Merci beaucoup. Monsieur le chef de quartier, Ndendere, vous êtes également le coordonnateur de la synergie de chef de quartier de la ville de Bukavu. Quelle évaluation faites-vous d'abord dans votre quartier et dans d'autres quartiers de la ville de Bukavu de ce projet?
Merci beaucoup, Expedi. Je voudrais encore rassurer ici la population qui nous suit que dans cette province, nous avons une autorité, nous avons un gouverneur qui travaille du jour au jour pour mettre une pierre sur une autre pour une province solide, fondée sur la cohésion sociale, sur la paix, sur le développement. Nous avons compris que lui, qu'on a compris vite avant tout le monde que loin de la route, loin du développement. On a fait un plaidoyer pour qu'on ait des routes dans notre quartier, surtout dans la ville de Bukavu et dans notre province, comme je le disais là. Et aussi, vous allez comprendre que les pavés ou même les routes que nous avons, qu'on est en train de construire, ça a été juste pour désengorger la route principale Emery Patrice Lumumba, Segundo. Ça a été juste pour faciliter la circulation, pour une circulation fluide, apaisée des personnes et de leurs biens. Et aussi pour pour l'esthétique et embellir l'environnement. Et quarto, ça a été juste pour aussi créer les emplois. Pour ces routes-là, nous avons eu la chance, comme quartier d'Indère, d'avoir quelques tronçons. Et ces tronçons-là, on a déjà cité, il y a Materdeg, on nous a parlé de l'ISP, pour ne pas croire qu'on a commencé ces tronçons-là parce que seulement Materdeg est là. Mais vraiment, ça a été un besoin profond pour répondre à ces grands besoins-là de la population. Il y a aussi les tronçons Kindu, il y a les tronçons des ouvriers, mais là nous parlons de Kibom, puisque il y a quand même un endroit aussi qui ça va vers Kibombo, ça va aussi vers les ouvriers, Rotuvira et Kindu, et Latine. Mais ce que nous avons constaté est que ce que nous regrettons d'ailleurs.
Non, revenons sur le constat sur la qualité des travaux d'abord.
La qualité des travaux, ce sont des bonnes qualités.
Ah bon?
Je vous assure que les travaux, quand vous passez, quand vous circulez, vous trouvez qu'en réalité, les gens se sont donné corps et âme pour faire l'essentiel. Si vous voyez, par exemple, il y avait des petites irrégularités vers l'entrée, vers les tronçons, vers les tronçons Materdeg, comme je le disais là, mais de toutes les façons, même les passages. Ici, nous voudrions quand même, le problème en est que, est-ce que vous pouvez me protéger contre papa
dis-moi. Vous êtes protégé.
Je suis protégé. Lui, chaque fois quand on est au studio, il c'est comme s'il s'est approprié la radio, malheureusement. Mais de toutes les façons, je voudrais dire que au niveau sur les tronçons Materdeg, je disais que il y avait des petites erreurs qu'on pouvait corriger. D'ailleurs, les passages des autorités ici. Franchement, moi, je pense, nous devons quand même donner les flairs, donner le mérite à quelqu'un quand il est encore vivant. Mais malheureusement, dans la province, nombreuses personnes oublient de dire quand même merci pour ce qui marche, mais ils cherchent toujours ce qui ne marche pas. Et c'est ça que je déplore. Moi, je voudrais encore féliciter et le gouverneur, et le maire de la ville, le ministre des infrastructures. Je voudrais féliciter ici même la commune et aussi la synergie de développement du quartier d'Indère chapeautée par les curé abbé de Materdeg. Ces gens-là, vraiment, quand ils passent, ils ont toujours remédié, dire quelque chose. Vous voyez, quand on a d'abord chassé, est-ce que vous savez qu'à cause de cette descente sur terre, hein, pour voir les activités bien réalisées, on avait d'abord chassé l'ingénieur qui était d'abord à Materdeg. Oui. Ça a été juste, c'est-à-dire qu'on cherchait quand même un travail de qualité. On avait d'abord tous ces groupes-là, tous les comités, on avait vraiment renvoyé cette. Mais vous avez d'ailleurs la fois dernière, on avait encore revenu derrière pour corriger les erreurs qu'on avait constatées. Pourquoi? Parce seulement le ministre a envoyé les gens pour la supervision, okay. Voir comment les activités marchent. Voilà, je voudrais aussi dire, placer un mot sur ce que nous rencontrons. Ce que j'ai toujours déploré aussi, et que dans la province, les gens parlent beaucoup, pas seulement de la province, mais à l'extérieur de la province, on parle beaucoup de la gouvernance sécuritaire. On parle beaucoup de la gouvernance sanitaire, de la gouvernance locale, de la gouvernance économique, de la gouvernance culturelle, mais moins la gouvernance environnementale. Il faudrait qu'on parle de l'impact de tout ce qu'on jette sur la route, sur ce qu'on fait là, mais malheureusement, je voudrais demander à notre population, franchement, quand vous voyez ces routes-là, même Amos, même s'il est en train de faire des gestes pour dire non, moi je sais, quand il sillonne sur cette route-là, même avec son véhicule, lui, je sais qu'il se sent très à l'aise, mais malheureusement, ces gens-là amènent des déchets, ils ont encore des déchets sur cette même route, des pierres, des briques, encore, et pourtant ça va endommager la route, nos routes là, ces bijoux là.
Monsieur le chef, je reviens vers vous dans peu de temps. Merci. Amos, vous également, vous étiez un peu agité dans le studio quand le chef parlait et quand Banyanga parlait. Quel élément contraire voulez-vous développer?
Merci, je suivais le chef de quartier. Je suis au regret. Je le comprends parce qu'il est du pouvoir et le poste qu'il occupe, il ne doit que défendre sa hiérarchie. Je vais bien. Mais au fait, je reviens sur deux points que nous avons évoqués même par rapport à la route RN2. D'abord, la question de la durée. Nous tous, nous sommes conscients que ces travaux ont été lancés pour une durée de 3 mois. Vous êtes journaliste, le mouvement Sauva PGRDC a déposé une lettre ici par rapport à la lenteur que tout le monde avait observée, surtout à la veille de la rentrée scolaire. Et nous-mêmes, nous avons écrit au cordon de ce projet, Step 2, pour dire ça ne va pas. Les travaux ont été lancés pour une durée de 3 mois, mais aujourd'hui, jusque-là, ils n'ont jamais terminé. On va vers 5 mois et je doute fort que même dans 7 mois, ils vont finaliser. Ça, c'est d'abord le premier aspect que le chef de quartier n'a pas touché. Par rapport à la qualité, c'est grave. Je suis d'accord avec la route vers mairie. Je suis passé sur cette route. J'ai constaté aussi que là, ça va. On ne doit pas tout voir en noir, comme il a dit. Mais si d'autres tronçons, je prends le tronçon route ISP Mater Dei, terrain d'AP ISP. Nous pouvons quitter ce studio et monter là, vous serez surpris. Juste une job à vous dire, Athéna, après avoir contacté certains, parmi ceux qui sont en train d'exécuter ces travaux, qu'on va quoi, Nadjenga Mado Dane Moubaï, pendant 4 jours. Je ne sais pas tout le monde a témoin, je ne sais pas le chef de quartier du passé où. Bakarudi Athéna Kouboumane Zil Mado Dane Jusukwa Nadjenga Moubaï San. Le chef de quartier. Est-ce que j'imagine même pas?
Mais c'est quand même une note positive, oui, si on a corrigé.
C'est ça, par rapport à ce qu'il
a déjà dit. Parce qu'il l'a dit. Il a dit qu'on a interpellé un ingénieur qu'on a remplacé.
Exactement. Ils sont revenus encore en train de démolir les deux dames qu'ils ont mal construites.
Pour faire mieux.
À part ça, même ma phase de ma commande à Chazamingi Zenyaz Djengel, nous avons alerté et ils sont revenus là. On peut monter ou tonne que Barjenga tonne comme Beach Juzi, dans le commerce finalisé.
C'est ce que je l'avais déjà dit.
Oui, je monte. Pour ce qui est de la largeur, dans les projets, personne ne va me contredire, c'était convenu au moins 6 mètres. Mais il y a là où on est même à moins de 4 mètres. J'ai dit qu'après émission, on peut monter. Il y a là où on est à moins de 4 mètres. À un moment donné, nos autorités sont montées sur cette route. Nabakatia Makroa, si certaines maisons, c'est Nibangebomola pour qu'elle va élargir. Mais tout ce qui est au terrain, il date. Garimbi la Zestamboukane, même Garimon à Moto à Zestamboukane. Et vous pouvez, oui, et ici vous venez confirmer qu'ils ont bien fait.
On l'a corrigé.
Non, vous avez corrigé où?
On l'a corrigé.
Au terrain de l'EDA.
On l'a corrigé là-bas.
Je mets tout le monde au défi. Ouais. On peut quitter ce studio et monter chef de quartier. Vous pouvez confirmer ici qu'on a démoli certaines maisons de Moutaka comme Macron,
etc. Ce n'est pas des questions de démolition.
Non. Moi, je suis, c'est moi qui parle. Chef de travaux. C'est moi, quand vous parlez, moi, je ne parle pas. Au terrain de l'EDA, même Garimon à Moutaka, vient de Boukane. Et vous voulez nous convaincre ici que vous avez bien fait? C'est vous qui dirigez. Qu'est-ce qui vous a empêché? Nous, nous avons couché à Komakoua. Ça prouve que vous ne dirigez pas. Vous élargissez le barbare pour qu'il fasse que se mettre. Il y a une qui a convenu un projet. Au terrain de l'EDAP, Gari Mona Mouta Vestamkan Nabak.
Avançons.
C'est là que j'ai dit.
Le gouverneur était revenu sur ça.
Tout oui, même. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait?
Non, c'est pas.
Avançons.
C'est ce que j'ai dit. Pour dire, ici au studio, ne trompez pas les gens que les travaux ont été bien faits. Et c'est là le problème. Il y a un manque de suivi de la part de nos autorités, à différents niveaux souvent, ce qui ne se fait pas sous d'autres cieux. Vous allez rencontrer sous d'autres cieux les mêmes projets de la Banque mondiale, avec les mêmes financements, mais chez eux, d'abord, la durée respectée des travaux, et d'aider, il faut voir la qualité, parce qu'il y a suivi de la part des autorités. La plupart des fois, et c'est ça le comble chez nous, nos dirigeants ne viennent que quand ils viennent maintenant inaugurer pour se faire de la santé politique et du populisme. C'est ça le comble chez nous.
En synthèse, Amon, sur une échelle de 10, quelle cote octroyez-vous à ce projet?
Sur une échelle de 10, je peux donner 6 sur 10.
Okay,
6 sur 10.
Merci
ou beaucoup. Même 5,5.
Merci
ou
beaucoup.
Pas trop
non, merci beaucoup.
Oui, Amon. 5,5.
Merci,
Amon. Non, je sais de quoi je parle. Merci parce que j'étais disant que, par rapport à ce que j'ai dit, nous montons. Et il y a aussi un autre problème. Et je le dis ici. Il m'a gardé ce qu'on attend ma michanga na ma jiu. Quoi, il m'a manane ma pavé. Je ne vois pas ces routes durer 2 ans.
Merci beaucoup.
Je ne vois pas ces routes durer 2 ans. Et je vais continuer à le dire parce que.
Banyanga est revenu également.
Oui, garde-moi, il n'a pita. Nikon déjà, il m'a pavé. Il a chaisé quoi, le temps ma jiu. Et je me dis maintenant, et mais si vous arrivez à Bolo 4, avec le pavé que Chambo avait
laissé en fait.
Avait laissé là, à Bolo 4, ou t'as quand même Zingazi na casa. C'est là que je doute de la qualité. Tout le monde peut se frotter les mains, comme le chef de quartier l'a dit ici. Mais à mon avis, c'est du populisme au niveau de nos dirigeants.
Merci,
Amos. C'est du populisme. C'est pourquoi je me dis souvent, Mick, quand ils partent discuter ce genre de projet, est-ce qu'il le faut pour l'intérêt de la population ou il le faut pour que Bapata n'a du populisme politique?
Merci.
Là, je dis non, et nous rentrerons dans ce studio et tout le monde sera en discuter par rapport à ce qu'ils sont en train de défendre
ici. Mick Moutiki,
dans moins de deux ans,
Mick ils Moutiki, vont manquer quoi dire. Président du cadre de concertation dans la société civile, vous vouliez nous partager, je crois, l'expérience de votre avenue.
Oui. Je pense que pour autant que Amos a dit que le chef doit parler pour le pouvoir, il faut comprendre aussi Amos quand il parle aussi pour sa chapelle.
C'est ma chapelle est
la c'est tête. Le mouvement citoyen.
Non.
Vous êtes mouvement citoyen, non?
Non, il avait déjà
dit. C'est comme ça que vous êtes connu. Et vous avez votre façon de vous exprimer. C'est ce que nous devons respecter. Mais je pense qu'il n'y a pas péril en demeure, de toutes les manières. Il y a un débat que nous devions faire avec beaucoup d'élégance et d'aisance. Moi, j'habite l'avenue Kindou. Franchement, on sent que l'avenue est en train de revivre après toutes ces insécurités. Parce qu'il ne faut pas oublier que non seulement on a placé les pavés, mais aussi on a mis l'éclairage public. Et il y avait beaucoup de criminalité dans ce quartier ici. Je pense
Avenue
Kindou, oui. Idée avec qui, grand frère Idée avec qui pendant dans ces quartiers, pendant qu'il y avait une forte criminalité, beaucoup de boue. Et donc, il faut dire quand même qu'il y a un pas des géants qui vient d'être fait dans ce qu'on appelle la voirie dans la ville. Et ce n'est pas aussi grave que ça. Et il faut remercier ceux qui ont amené ces projets. Seulement, pour mon avenir, j'ai un plaidoyer direct à faire ici. Vous voyez juste derrière la maison du papa de l'honorable Olive du beau-père l'honorable Olive Moudekereza derrière. Donc
il y a la stagnation des eaux.
Il y a une stagnation des eaux.
Ouais, le ministre a vu
ça. Qui entame déjà donc tous les curages en profondeur
en face de l'église
Pénuel et toutes les maisons en amont leur canalisation des eaux usées sont bouchées et là l'eau entame déjà les maisons. Vous pouvez voir déjà donc sans lunettes que la maison du pauvre papa est déjà entamée par de fortes humidités qui sont visibles même de l'extérieur. Et si ces eaux continuent à stagner là-bas, on aura besoin d'un pont là-bas. Et j'aimais, quand j'étais en troisième primaire, j'ai appris un proverbe swahili, usiposi ba ufa, utajenga ukuta. Si tu ne bouches pas une brèche, tu seras obligé de construire tout un mur. Et là, si vous ne bouchez pas là-bas, on sera obligé de chercher les ponts. Et vous voyez, les ponts, il faut que ça vienne du gouvernement central. Et un pont là, vous voyez comment ça nous coûte. Donc, c'est à ce niveau-là que moi, j'interviens directement pour voir. Mais pour le reste, on peut inaugurer ces pavés. Ça nous fait du bien quand même.
Monsieur Dé Bakoulou, quelle leçon tirer de l'exécution de ce projet à mi-parcours?
Merci beaucoup. D'abord, en tout cas, je félicite ce que j'ai vu. Je venais de Kinshasa, ça faisait quelques temps que je n'étais pas dans la ville. Et j'ai amené quelqu'un de ce côté-là, donc dans l'avenue Kinou, le soir. Mais j'étais émerveillé, c'est vraiment très bien. Et je me suis dit, le plaidoyer que nous avions fait en son temps, parce que Niagaza le sait pour qu'on ait les pavés, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour qu'on ait les pavés. Le projet était, c'est un projet Timo en fait. Timo. C'est un projet Timo, ça veut dire travaux à haute intensité de main d'œuvre. Et on voulait faire comme on fait à Goma, on balaye, etc. Mais on leur disait, mais on va balayer où? On va balayer la boue.
Potopoto.
On va balayer la boue. C'était des grandes discussions avec le Fonds social, avec la Banque mondiale. Je me rappelle que ça fait aussi l'objet des voyages des autorités ici, du gouverneur de province à l'époque, et même du maire. Et ça m'étonne ici que ce soit le ministre qui est en train de faire le suivi de ces travaux. Ça, c'est les travaux de la mairie de Bukavu.
C'est ça souvent en RDC.
C'est lui le maître d'ouvrage, comme on dit. Donc ce sont des travaux de la mairie de Bukavu. C'est le maire qui doit être sur chantier. Ce sont ses propres travaux. Ce n'est pas des travaux de la province comme entité. C'est des travaux propres à la ville de Bukavu. Donc c'est le maire qui doit assumer les suivis des travaux. Ça m'étonne que ça saute du maire vers le gouverneur directement. Je ne sais pas où est le mécanisme, quel est ce mécanisme-là qui a fait que ça saute du maire vers le gouverneur. Mais ces travaux-là, ce sont des chefs de quartier, c'est des travaux de la mairie de Bukavu, de la ville de Bukavu. Le gouverneur, c'est vrai, il est l'autorité hiérarchique, il doit effectivement faire les suivis, mais en termes de surveillance quotidienne des travaux, ça c'est les travaux de la mairie de Bukavu. Et ce qui est vrai, c'est que maintenant on est... Je me rappelle qu'effectivement, quand on faisait le projet, on disait c'est 3 mois. On a fait des discussions, des longues discussions sur la durée des travaux à l'époque.
Bientôt 6 mois.
Et nous étions surpris que les ingénieurs nous confirment qu'en 3 mois, ils peuvent finir les travaux. Et la différence entre les travaux que nous faisons au niveau de l'État et les travaux financés par la Banque mondiale, c'est qu'à la Banque mondiale, les fonds sont disponibles. Sont directement disponibles. Ce ne sont pas des fonds qui vont venir des impôts et consorts. Ce sont des fonds disponibles. Mais la Banque mondiale a ceci de particulier. Chaque fois qu'il y a un élément externe qui intervient, on bloque un peu. On bloque un peu pour effectivement voir qu'est-ce qui se passe. Chaque fois qu'il y a un élément externe au projet qui intervient,
la banque...
Ils ont parlé, avant ça parlait de 1 mètre au niveau de,
terrain,
du terrain de l'EDAP.
On peut y monter?
Oui, je veux bien. Je veux bien. Mais supposons qu'à l'époque, on démolissait les maisons, comme il a dit, et qu'on n'indemnise pas. Directement, le projet est bloqué par la Banque mondiale.
Et que les gens manifestent.
Oui. Donc, si on n'a pas indemnisé, la Tout banque tombe. Bloque. La banque bloque. Donc je crois que c'est la même chose. C'est le même cas qu'on a eu sur la route qui va vers le cimetière.
Le cimetière.
C'est le même cas qu'on
a eu. Et le marché de Yaouira.
Oui, et même la fois passée, nous avons eu le même problème sur Ruzizi 2.
Et même Ruzizi 1er.
Même Ruzizi 2. Bon, Ruzizi 1er, oui, même Ruzizi
2. La construction d'un marché
transfrontalier. Maintenant, le même problème, on l'a eu à Ruzizi, à Ruzizi 2. Ce qu'on a construit, ce n'est pas ça qui était prévu. C'était prévu un grand espace. Mais bon, on a eu des problèmes. D'abord avec un concessionnaire, et puis avec l'État n'a pas donné les moyens pour indemniser des gens. Alors, on a fait ce qu'on pouvait.
À qui la faute
alors? Et c'est ce qu'on fait. Je peux vous dire une chose. On peut vouloir la route, mais les indemnisations vont coûter 10 fois plus cher que la route. Supposons, prenons le cas de la route Avenue Sayo, c'est ça, je crois. L'avenue Sayo.
Oui.
Aujourd'hui, dans le programme avec l'ABAD, il y a...
Sinoïdo qui construit.
Et oui, on doit construire cette route-là. Mais voyez-vous,
c'est en pleine construction, Avenue Sayo. C'est en pleine construction.
Oui, voyez-vous.
Déjà.
En pas pleine
déjà
construction. Mais voyez-vous, quelle route on va faire là? On va juste donner le passage. Mais on ne va pas faire la route en réalité. Parce qu'on ne peut pas. Si on commence à démolir là-bas, indemniser, cette route va coûter 20 fois plus cher. Les indemnisations vont coûter 20 fois plus cher que
la route en fait.
Ce qui est vrai, c'est que, comme Amos le dit à un bon citoyen de la société civile, de mouvement citoyen, l'État est un peu faible par rapport à ça. Et nous devons l'admettre. Nous devrions, en principe, démolir et faire une route. Parce que, quel est le but? Non seulement faciliter le passage, mais aussi désengorger la principale ici.
Je l'avais déjà dit.
La principale ici. Donc, or, en faisant une petite route où à peine 2 véhicules peuvent se dépasser, c'est vrai qu'on aura fait quelque chose, mais pas vraiment résoudre le problème. Sinon, pour les pavés, nous savons tous bien que les pavés, sont construits à, donc, ils sont construits pour un délai bien limité. Nous connaissons les pays où nous avons vu les pavés. Au Burundi, nous avons des pavés. Au Rwanda, il y en avait, même si au Rwanda, on est en train de tout démolir. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que les pavés, les conséquences des pavés à la fin, c'est quoi? C'est que 2-3 ans après, les pavés eux-mêmes commencent à détruire les véhicules. Donc, les pavés commencent à détruire les véhicules. C'est pour cela que dans d'autres pays, on est en train de démolir les pavés pour y mettre une bicouche, la route bicouche, qui coûte approximativement la même chose, en fait. Qui coûte approximativement la même chose. Mais pour nous ici, avec toutes nos difficultés, c'est déjà une très bonne chose que nous ayons des petits tronçons de route. Où il y a des... Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit, les efforts qu'on avait déployés en son temps ne sont pas vains.
Monsieur Idé, vous aviez semblé montrer que le projet réussit parce qu'il s'agit d'un financement de la BAD, qui donne pratiquement, la Banque mondiale, qui donne pratiquement l'entièreté de moyens. Mais est-ce que les entités, ici chez nous, les entités territoriales décentralisées, la ville par exemple, les communes et de l'autre côté peut-être la province, disposent-elles des moyens pour entretenir de tels projets?
En principe, on devrait avoir des moyens pour entretenir. Et dans le cas de la... Quand on dépasse des délais dans le cadre de projets qui sont en exécution, il y a ce qu'on appelle prolongation sans coût. Je ne sais pas comment la ville, ou plutôt la société qui est en train d'exécuter les travaux, a négocié la prolongation du délai. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, comment ils ont négocié ça avec la banque. Mais effectivement, dès qu'on nous fait une route comme celle-là, à nous maintenant d'entretenir. À nous d'entretenir la mairie, les communes, même la province. De toute façon, ce serait dommage, comme l'a dit le chef de quartier, les autres l'ont dit. C'est dommage qu'à peine les pavés sont là, on commence à y jeter des immondices. Ça, c'est très grave. C'est vraiment une culture qui n'est pas citadine. C'est une culture qui n'est pas citadine. Un citoyen de la ville est différent des autres citoyens qui ne vivent pas en ville. Un citoyen de la ville a un comportement qu'il doit adopter. Dans d'autres, dans les pays qui nous entourent, dans les provinces voisines qui nous entourent, vous voyez comment les choses sont propres. Ici, chez nous, ça devrait être la même chose. Ça devrait être la même chose. Nous devons entretenir les routes que nous sommes en train de construire. C'est petit, oui, mais entretenant ce qui est petit, personne ne va nous donner plus grand si nous ne savons même pas entretenir les petits tronçons de 500 mètres, de 1000 mètres qu'on sort.
Voilà, monsieur le chef, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les habitants au civisme, question justement d'entretenir ces infrastructures nouvellement réhabilitées ou construites?
Ah, merci beaucoup, Expedi. Mais c'est vrai, nous ne sommes pas venus pour un jeu de ping-pong avec mon papa, Amos Bissima. Je suis Migao Bissima aussi. Hein? Nous ne sommes pas venus pour un jeu de ping-pong. Mais de toutes les façons, je pense que cette question, c'est Amos qui devrait d'abord répondre. Amos devrait d'abord penser et dire qu'il va animer le civisme environnemental. Il a parlé de Diré. Vous voudrez que je puisse encore revenir sur la Diré. Lui, Amos, connaît que la Diré a été au moins prolongée parce seulement il y avait un plaidoyer pour voir s'il y avait encore un endroit où on pouvait détruire. On a constaté que ça pouvait créer un sérieux problème et les activités ne pouvaient pas évoluer. Mais il a parlé là où il y a un édifice qui est 2 mètres. Je vous assure, nous pouvons y monter. Avec les plaidoyers de tout le monde, vraiment, on est arrivé. Ça, il y avait un endroit qui est un peu exigu, hein, un peu rétréci. Mais nous sommes rentrés là, nous sommes partis et on a augmenté encore.
Oui, nous étions hier sur
un endroit de 6 mètres. J'ai fait un effort exceptionnel.
C'est vrai, Amos, on a corrigé.
J'ai fait un effort exceptionnel. Moi, j'ai pensé qu'Amos, un jour, pouvait même venir dire, Pasteur Migab, merci pour ce que vous avez fait ici. Puisqu'il y passe régulièrement et il connaît qu'il y avait une maman qui a voulu s'acharner contre moi. Lui, il est en train de montrer.
Confrontation avec Amon, c'est...
Non, vraiment, on a fini. Mais je disais que là, c'est 6 mètres déjà et on a, en tout cas, ça marche. Qu'est-ce que nous faisons, comme vous l'avez déjà dit,
ouais.
Vous avez posé la question, nous sensibilisons. et nous continuons encore à sensibiliser à la population, de développer vraiment ce que nous appelons civisme environnemental, de comprendre que nous devons pérenniser les activités, nous devons pérenniser ces travaux-là. Nous avons eu le temps, vous savez, papa Expédie, que je ne comprends rien avec la mentalité de nos gens. On avait retourné les gens derrière, comme on condamnait encore, pour qu'on puisse réparer. Mais il y avait un endroit qu'on a voulu encore réparer, mais on a rencontré, il y avait déjà des sables, des moelleaux qui étaient déjà versés sur les... C'est la chaussée. Et là, quelle chaussée, quelle route qui n'est pas encore la même étrée, qui n'est pas jusque-là remise, qui est la route
ni inaugurée.
Mais vous comprenez que c'est celui-là qui dit Mutanifanya nini. Niko na bakuba, niko na i. Moi, je voudrais que la population puisse s'approprier, pérenniser ces routes-là. C'est vrai, s'il y a un endroit partout, il y a les hommes, il y a des forces et la faiblesse. Ce qui est faible, moi je pense que la majorité de ce qu'on a fait, je vous dis papa Expédie, que les travaux sont de bonne qualité.
Tout à fait.
Il faut maintenant que la population se donne corps et âme pour pérenniser les activités. Et nous aussi, pas seulement même les chefs de quartier, pas seulement les gouverneurs, pas les maires, pas la commune, mais de toutes les façons la population devrait se travailler comme un seul homme et mettre la main, dire que vraiment développer, parler, par rapport à ça. Même un voisin qui voit son ami en train de jeter, il peut déjà faire son travail. Que chacun a un rôle capital à jouer dans la pérennisation de ces routes ici.
Et sur ces routes de bonne qualité, il y a également les véhicules qui sont stationnés, on laisse les véhicules pendant longtemps.
C'est ce que je disais là, surtout sur l'avenue Yatne, surtout sur l'avenue Kindu, ça laisse à désirer. La population construit des garages, mais malheureusement, pour allouer ces garages-là, au lieu de d'utiliser
sa corps,
de parquer leur véhicule. Mais est-ce que vous comprenez que au niveau de Kindu,
ils sont devenus des boutiques.
C'est ça ce qui nous... Moi, je pense,
Expédie,
vous m'avez toujours entendu chaque jour ici, taquiner Thaïs pour dire, Thaïs, cette radio a une voix, c'est une bouche autorisée de cette province. Faites aussi, aidez-nous vraiment à sensibiliser la population. Soit, laissez d'abord en dehors de ces pavés-là, le véhicule, amener ça dans les garages, soit utiliser les garages qu'on a déjà transformés en boutique.
Voilà. C'est ça. Faustin, vous avez suivi les avis des uns des autres.
Exactement, cher Expédie. Je reviens d'abord sur l'avenue Kindu, où en face de l'église Pénuel, il y a vraiment le bouchage de ces caniveaux à ces niveaux. Et voilà, l'excellence Georges Kibongé n'a pas hésité en aucun cas à signaler cette malfaçon. Et je crois, avec vous, que ça va être corrigé parce que ça ne lui a pas plu. Il a exprimé son mécontentement, je m'excuse, par rapport à cette situation qu'il a constatée. Voilà les avantages d'une autorité d'être sur terrain et de palper du doigt l'évolution de tous les travaux parce que toutes les entreprises qui exécutent ne sont pas toutes sérieuses. Il y a celles qui peuvent vouloir maquiller un tout petit peu, faire ce qui n'a pas été prévu, comme on l'a constaté à un certain niveau. Quelque part, le ministre a tonné. Plusieurs fois, il est au chantier, vous le voyez surtout sur terrain. Et si vous voulez, en tout cas, voir les œuvres du ministre Georges Kibongé, allez sur son compte TikTok, écrivez seulement Georges Kibongé Babingo. Vous allez voir comment... Comment il est sur terrain. Oui, comment il est sur terrain.
Le terrain de la publicité.
Exactement. Comment il est sur terrain. Comment il est sur terrain à chaque moment pour la supervision de tous les travaux qui sont en train d'être exécutés. Par rapport à ce que notre papa a dit, le papa Idé Bakoulou sur ce qui devait revenir au maire de la ville, bon, en principe c'est ça, mais l'exception, on doit le reconnaître en droit administratif, c'est lui qui paie le plus, paie le moins, c'est-à-dire on n'exclut pas au ministre en charge des infrastructures, de superviser ou de contrôler les travaux qui s'exécutent dans sa juridiction, que ce soit dans la ville, dans la province, et pourquoi pas sur toute sa juridiction. Donc c'est dans les cadres normaux, c'est dans l'exercice normal de ses compétences. Ramos est revenu sur la pétutesse même de la route. Bon, on ne doit pas tout voir en noir. Je vous assure, nous étions hier au terrain, pas plus tard que hier, peut-être que vous y étiez avant-hier, et nous étions hier au terrain, et nous avions constaté qu'il y a un ingénieur qui a été remplacé, l'ingénieur qui exécutait le travaux au niveau de l'avenue de la Montagne, une avenue d'ailleurs trop belle. Et peut-être que vous n'êtes pas encore passé sur l'avenue de la Montagne. Comment ça fait beau vivre, vous penserez que vous êtes à Paris.
Ngouba.
Vers Ngouba. Vraiment, c'est trop beau. Les gens construisent très bien. Les maisons sont trop propres. Les habitants sont bien éduqués en assainissement. Vous remarquez que les choses sont vraiment... Moi-même, je rêvais un jour avoir une parcelle là-bas qu'à l'avoir à Paris. Bon, bref, vous sentez que vous êtes en ville.
Ah, bon?
Moi, je vous dis, je vante les mérites. En tout cas... Si d'autres avenues devraient mettre une rigueur sur la propriété, la ville de Bukavu serait vraiment la plus belle ville que l'on peut connaître.
Merci.
Et donc, hier, on a constaté qu'il y a eu correction, on est arrivé, le même ingénieur qui exécutait les travaux sur l'avenue des ouvriers de la Montagne, où c'est vraiment vanté, c'est le même ingénieur qu'on a réquisitionné pour qu'il fasse le même travaux sur l'avenue Mater Dei, et je vous assure que ça va être très bien fait parce que c'est un ingénieur de grande taille qui est là. Pour finir, nous avions été informés par le fonds social, l'ex-fonds social alors, que après la remise de ces travaux, c'est mercredi, nous aurons encore une fois à bénéficier des 5 autres kilomètres de pavage dans la ville de Bukavu. Quoi de plus important que de féliciter les autorités qui s'impliquent jour et nuit pour que la boue disparaisse dans la ville de Bukavu.
Merci pour cette information, Amos. 5 autres kilomètres, qu'est-ce que vous proposez de plus pour que les entreprises exécutantes fassent mieux?
D'abord, j'encourage, parce qu'on a dit que j'ai toujours vu tout en noir. Mais je voudrais demander qu'ils tiennent compte des travaux qui ont été exécutés dans le passé pour qu'ils corrigent cette fois-ci par rapport aux 5 km que nous attendons. Mais je continue à dire au terrain de l'EDAP, c'est catastrophique là. On n'est pas d'accord, même je reçois des messages étant au studio, que Bikoa Jusa Kamani Balabala Yamamutonjo Varijenga, au Balabala Magari. Au terrain de l'EDAP, j'insiste. Aucune maison n'a été détruite et pourtant c'était prévu. Ce qui me pousse à revenir, c'est que Lide Bokulu a dit par rapport de la route Sayo. Moi, je pense que cette route, avant que je naisse, existe de l'époque belge. Alors, comment les gens sont parvenus à construire Maïle Balabala et qui leur a donné Balabala Baïdjengiam? C'est là que nous devons revenir. Nous revenons toujours à l'irresponsabilité de ceux qui nous dirigent. Soyons conscients. Batu Baïdjengiam Balabala a daté de l'époque belge. Idée. Soyons sérieux quand même. Non, il y a problème de l'indemnisation. Baïdjengiam Balabala, les taxes sont bien indemnisées du Yanni. Comment ils ont eu les documents?
C'est la loi, c'est la loi.
C'est la loi qui leur a autorisé de construire dans la route Bouzongwa Diacha.
C'est la loi qui prévoit l'indemnisation.
Je n'ai pas refusé. Mais comment ils ont construit Balabala, il y a une date de l'époque belge? Soyons sérieux. Voilà votre irresponsabilité. En même temps, Ide Bakulu a parlé de... On a toujours eu des problèmes de savoir qui doit faire les suivis et qui doit même inaugurer. Ça pose le problème de la décentralisation dans notre pays. Même pour un petit robot, que même un chef d'avenue ou un chef de quartier devrait inaugurer comme ça se fait sur d'autres siècles. On voit, c'est le gouverneur qui mobilise les moyens, Namangoma, Suenani, Namabafle, pour un robot. On a toujours vécu à Bukavu. On a toujours vécu au Sud Kivu.
Quel est le grief de ça?
Non, pardon?
Quel est le grief?
Non, j'étais en train de parler de ce qu'Ide Bakulu a dit pour ce qui est de la décentralisation. Et personne ne peut me contredire. Nakumbu Kairobe comme fer rouge. J'avais vu à l'époque, je me réservais de citer le gouverneur qui était ici. Et ça continue malheureusement. Na robot ya robot. Il y a un chef d'avenant à tes inaugurés. Ni gouverneur, je m'en occupe, n'a ma baffle, n'a ma soeur, n'a ma nîmes. Nous devons arrêter ce populisme. Qui ne nous avantage à rien. Au lieu que le gouverneur ait mis en makazi, on a couillé du ya robot.
Merci
et
beaucoup.
Et vous trouvez ça
nous
normal? Je chute par rapport à la question du civisme. Parce que ça a été évoqué, je vois, on m'envoie des messages. Kwenye batu kwa tupu me mapuchafu, na masyo, na manini, na masaki za madesheza, za kwabo, dans ce caniveau-là, kwa hili mabalabale walijenga mapave. Nous tous nous sommes à Bukavu. Nous devons arrêter avec cette aventure.
la même population yenye nafanya kama bêtise Bukavu inavuka kama mzingine nchi njo bakristo ba kwanza. Vous devriez encore revenir kujua kama c'est vous qui êtes à la base de tout ça à cause de votre responsabilité, comme j'étais en train de le dire. Pourquoi la même population qui se comporte mieux ailleurs, quand elle arrive à Bukavu, ça devient catastrophique? À qui la faute? J'ai toujours dit que la gestion d'une cité, on ne doit pas la comparer à une église. Non! Soyons sérieux, c'est à l'église.
Ça doit se faire avec rigueur.
Tout à fait.
Le bâton à la main.
Tout à fait expédié. La gestion de la cité, c'est à l'église où les pasteurs, les prêtres, à longueur de journée, moussizine, moussiibe, moussigombane. L'État, c'est ce qu'on appelle les moyens coercitifs de s'imposer à respecter la loi. Pourquoi ça ne se fait pas chez nous?
C'est bien entendu.
Il fallait comprendre que c'est vous-même qui êtes à la base de tout ça, tout en appelant la population. Au civisme, je n'ai pas refusé, mais à part le civisme, il faut que la loi fasse son travail pour remettre chacun à sa place.
Merci.
Mais à longueur de journée. Nous, on va devoir chimie. Nous avons été parce que nous avons vous gérez dans l'irresponsabilité.
Merci à moi.
Je ne veux plus parler de la médiocrité comme vous l'avez dit, mais il faut comprendre que c'est comme ça que ça se fait chez nous, contrairement à ce qui se fait sous d'autres.
Merci sites. Beaucoup. Idée Bakou, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger?
Ah oui, bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des travaux qui ont été faits. Les ingénieurs ont constaté avec les responsables, ils ont constaté certaines faiblesses. Je crois que pour la suite, ils vont corriger par rapport aux travaux qui ont été faits. C'est l'occasion, effectivement, de féliciter le Fonds social pour le travail qu'il fait, pour le travail qu'il va encore nous faire. C'est vraiment une très bonne chose ici chez nous. Ce que j'ai dit, je félicite toutes les autorités. Le gouverneur Ngouabidje était très, très impliqué dans l'histoire des pavés. Le maire aussi et toute la population de Bukavu était très impliquée. Je suis content qu'aujourd'hui, on voit les fruits. Comme on a dit, l'inauguration, en principe, c'est le maître d'ouvrage qui doit inaugurer. Mais ça ne l'empêche pas d'inviter quelqu'un qui lui soit supérieur pour venir inaugurer. Mais là, il inaugure au nom du chef, donc à la place du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage de tous ces travaux dans la ville de Bukavu, c'est le maire de Bukavu.
Malheureusement.
Parce que ce ne sont pas des travaux effectués par le pouvoir. Ce sont des travaux. La mairie a bénéficié d'un financement. C'est la mairie qui a bénéficié du financement. C'est, en tant qu'entité, je parle comme entité. Ce n'est pas la province qui a bénéficié de ce financement-là. Donc, j'encourage encore une fois le fonds, ce qui était fonds social, pour que il nous donne encore ces 5 km. Mais il faut faire attention. Il faudra que ça se fasse en harmonie avec le ministère des Travaux publics en province.
Exactement.
Parce que il y a des tronçons dans la ville qui sont prévus pour être construits.
Par le gouvernement provincial.
Non, surtout par le projet là, de la BAD.
Ouais.
Il y a beaucoup d'avenues qui sont concernées. Donc, il ne faut pas faire double travaux.
Justement.
Il faut effectivement...
C'est déjà ciblé.
Il faut qu'on cible les tronçons qui ne sont pas ciblés par
le projet BAD.
Donc, il faut qu'on fasse ce travail-là. Et courage à tout le monde. Moi, vraiment, ce genre de travaux nous touche beaucoup. Parce qu'on voit maintenant qu'on peut circuler sur des tronçons. Ce que j'ai dit avant, les efforts n'ont pas été vains.
Merci beaucoup. Mick, en 30 secondes.
En 30 secondes, la notion de la décentralisation rentre toujours sur les compétences du pouvoir central, le gouvernement provincial, ainsi que l'ETD ville. Et vous voyez qu'il faut qu'il y ait de la lisibilité de l'autorité des tutelles pour que, en cas de problème, la responsabilisation soit démarquée. Ça, c'est une première pierre de manche. L'autre pierre de manche, c'est, au fait, à tout Abatili, à tout Kotunasema, Fonds social, Altupatia, BAD, Altupatia, de toutes les façons... la province ne peut pas vivre que pour mobiliser l'argent pour son fonctionnement.
Bon, il y a la campagne qui a été lancée pour que les Sud-Kivuciens donnent de l'argent. Je ne sais pas où ce qu'on doit en arriver. Mais moi, je m'irais qu'il y ait des projets faits en province en disant c'est notre argent, ça fait de la fierté. Il y a une question de patriotisme dans tout ça. N'oublions pas que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. On ne sera pas toujours un peuple qui reçoit. Donnons-nous, si nous ne pouvons pas donner à d'autres, mais donnons-nous au moins la chance d'avoir des projets comme c'est le cas. Nord Kivu, des projets faits, made in South Kivu.
Projet maison. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Expedi. Je comprends que nous sommes déjà talonnés par l'État, mais je voudrais placer quatre mots d'une manière brève. Hein? Alors, je voudrais demander à nos. C'est le chef de. Nos autorités. Nous devons éviter de souffrir d'un déficit communicationnel, éviter de souffrir de déficits d'action collective. Moi, je pense que quand on entre dans les quartiers comme ça, malgré nous, c'est vrai, chef de quartier, une autorité, les communicateurs, je ne sais pas s'il me suit encore, on pouvait quand même communiquer, dire même au chef de quartier, au chef d'avenue, là où on devrait passer, pour que nous serons dans l'avenue un jour tel jour.
Hier, nous étions accompagnés par le chef d'avenue.
Ok, chef de quartier écarté, merci. Oui. Mais de toutes les façons, je vois l'endroit, on parle de l'endroit Kadeko. On avait tenu une grande réunion avec plusieurs autorités, aussi même avec les gens qui travaillent, les chefs du fonds social, mais on avait montré là où l'autre devrait passer. Hein? Je ne sais pas. Si on était là, on pouvait encore dire c'est ici où on devrait. L'état qui reste, on devrait tracer ici. Secondo, je voudrais parler des pavés. Pérenniser ces pavés. Je demande à notre chère population de pérenniser ces pavés. Comme on en va encore donner quelque chose, il faudrait qu'on puisse voir que le quartier de Né a bien hein, pérennisé ce qu'il avait eu. Et aussi sur l'avenir route Sayo. Les travaux qui s'exécutent de ce côté-là, nous demandons vraiment à la population d'évacuer l'air pavé, des véhicules, des épaves qui traînent encore sur cette route qu'on est en train de construire. Et aussi, je voudrais rappeler, Expedi, qu'avec l'insécurité qui était vers la voie, en tout cas, on a trouvé, il y a déjà une solution, puisque aussi le commissaire provincial nous a facilité la tâche. Nous avons rencontré le commissaire qui nous a aider à travailler pour qu'on puisse que la sécurité puisse rétablir de cet endroit-là.
Merci donc à vous. Nous allons clôturer cette partie de l'émission Paix Développement de ce jour. Nous recevons des messages des habitants de la ville qui plaident pour qu'on intègre certains tronçons, notamment le camp Sayo, estimant que les gens transportent les cercueils dans des conditions déplorables. Ils plaident également pour Edap, Bilala, quartier latin. Donc, autant de tronçons que l'on demande. Bilala est maintenu, camp Sayo pas encore.
On continue le plaidoyer.
Il y a également ceux qui plaident pour l'évacuation du camion qu'on retrouve non loin de Chedaleti, un camion de couleur verte qui traîne sur la chaussée sur avenue Patrice Emery Lumumba. On demande à l'autorité urbaine de se démener pour son évacuation. Nous terminons cette partie d'émission pour parler d'une dimension internationale qui va concerner également l'humanité, qui va concerner la République démocratique du Congo, l'Afrique de façon particulière, l'élection de Donald Trump le mardi dernier. Merci chers auditeurs, restez branchés. Dans une minute, ce sera la suite de cette émission.
Jeune entrepreneur. Lakini serikali za chimbo hazikuwa unga mikono. Wakati wanaanza kazi zao. Taxi hapa na pale. Trakaseri. Inavuka mipaka o.
Takushangaza hiyo pesa. Aisaidi chimbo. Yote imeshia. Mufuko ya watu. Duka nyingi zimefungwa, kampuni nyingi zimefungwa. Juu ya uwenge wa matate. Na kupelekea watu kupoteza makazi. Oh, Kivu.
Hata
nyumba za serikali zinafanya utata e. Watu wengi wamejiruhusu kuuzisha nyumba za serikali e.
Des marchés, des écoles et même les cimetières ne sont pas épargnés. Certaines personnes se permettent de construire sur les sites impropres. Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Kourous, les sites qui vous attaquent beaucoup de vous.
Minutes, la suite de cette émission. On se rappelle donc de ce fait, en effet, sans retour historique à la Maison Blanche, des faits en 2020 visés par 4 procès au pénal. Donald Trump a largement battu mardi dernier sa rivale démocrate Kamala Harris. Le républicain a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris et signe un retour extraordinaire au pouvoir. La candidate démocrate a reconnu sa défaite et a demandé à ses partisans d'accepter les résultats tout en leur demandant de continuer de se battre. Cet article de RFI, on se rappelle tous des propos désobligeants tenus par Donald Trump lors de son passage à la Maison Blanche. Il avait alors qualifié Haïti et les nations africaines de pays de merde, ce qui avait suscité l'indignation sur le continent. Mais hormis cet incident, le président Donald Trump avait montré peu d'intérêt pour l'Afrique. Lors de son premier mandat de 2016 à 2020, Donald Trump n'y a effectué aucune visite officielle, nous le rappelons. Contrairement à ses prédécesseurs, le président Barack Obama, lui, avait visité 7 pays africains. Le républicain George W. Bush, lui, en avait visité 11. Même les membres de l'administration Trump se sont peu déplacés sur le continent. Son principal secrétaire d'État, Mark Pompeo, n'a effectué qu'un voyage au Sénégal et en Éthiopie en toute fin du premier mandat de Donald Trump, un peu par obligation, disaient certains chercheurs poursuivent cet article de RFI, pour tenter de contrer la concurrence chinoise, notamment économique. Et pourtant, malgré ce manque d'intérêt affiché de Donald Trump, la politique africaine de son administration s'est inscrite dans la continuité. Comme par le passé, il a surtout été question de stimuler l'investissement et d'accentuer des échanges commerciaux avec l'Afrique. D'ailleurs, durant sa présidence, Donald Trump a maintenu les budgets alloués à l'Afrique. La continuité aura été également sur le plan sécuritaire, où l'administration Trump a maintenu son soutien à plusieurs pays dans leur lutte contre la menace djihadiste, tout en réduisant sensiblement la présence militaire américaine sur le continent. Une belle victoire pour Félix Tshisekedi. Il y a eu nombreuses réactions, à l'instar de celle justement du président burundais Evariste Ndayishimiye, du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, du président nigérien. À Kinshasa, Félix Tshisekedi, président de la RDC, a salué cette élection en parlant d'une belle victoire. Le chef de l'État congolais s'est dit prêt à collaborer avec le nouveau président américain élu et à renforcer ce qu'il qualifie de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis, des pays qui, selon lui, entretiennent déjà des bonnes relations amicales et de coopération. L'entourage de Félix Tshisekedi a également exprimé l'espoir d'une implication accrue des États-Unis dans la recherche de la paix dans l'est de la RDC. Je cite: nous allons travailler avec la nouvelle équipe par rapport à la situation dans la partie est pour des solutions durables. Et le président Trump a été clair déçu, il va mettre fin aux guerres qui existent. Fin des citations, explique Tina Salama, porte-parole du président de la République. Sur les réseaux sociaux congolais, le débat se focalise sur la figure de Trump, suscitant commentaires, débats et parfois même éléments d'humour par-ci, par-là, des conséquences économiques négatives pour l'Afrique du Sud. Au Sénégal, du fatalisme et surtout pas de crainte particulière. Ainsi donc, Donald Trump signe son retour à la Maison Blanche. Pour en parler, nous recevons dans ce studio Joseph Baraka, qui est de l'Institut Patrice Emery Lumumba de la génération Générations Unies. Baraka Joseph, bonjour.
Bonjour, bonjour auditeurs et auditrices.
Bienvenue à vous. Nous gardons dans ce studio Idé Bakoulou et Mick Moutiki. Joseph Baraka, brièvement, comment vous avez analysé le retour de Donald Trump à la Maison Blanche?
Merci pour la parole.
Alors, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche est inscrit dans un cadre réactionnaire. Alors, dans le monde aujourd'hui, classiquement, les chocs politiques aux États-Unis ou dans le monde occidental où ce sont les idées qui règnent, il était par rapport au programme politique. On peut être de gauche, ça veut dire des socialistes généralement, qui défendent plus l'État, un État-providence, ou on peut être de droite. Alors la droite est souvent conservatrice aussi sur des valeurs, ce qu'ils appellent leurs valeurs. Et ces valeurs sont souvent dans un certain cadre de la liberté économique, surtout pour ceux de droite et pour ceux de gauche. Aux États-Unis, c'est très difficile. Et pour ceux de gauche, c'est plus d'État-providence, comme je venais de le dire. Aux États-Unis, ce n'est pas très clair parce qu'il y a un consensus idéologique aux États-Unis qui est que, bon, il devait y avoir le moins d'États possible, même si parfois les démocrates et certains qui ont vraiment une position socialiste et les démocrates, comme Bernie Sanders, pensaient effectivement qu'il devait y avoir un peu de redistribution de richesse. Mais le principe et la base, il reste la même. Il y a que les États-Unis, c'est le pays de la liberté, et donc la liberté économique, la propriété privée respectée. Sauf que ce bouleversement, et là je vais très vite simplifier pour ne pas donner trop d'exemples, ce bouleversement a été, il y a eu un bouleversement à partir de 2015, en particulier aux États-Unis, parce que les États-Unis c'est le pays qui est devenu le cadre idéologique, parce que l'on vit en Europe est souvent réactionnaire à ce qui se passe aux États-Unis, et après leur politique diffuse dans nos pays et impose le rythme au monde. Il y a eu un bouleversement parce que au niveau idéologique aux États-Unis, il y a eu de gens qui ont été réactionnaires. La division ne s'est plus fait plus gauche-droite, elle s'est fait mondialiste-nationaliste. Parce que ça avait déjà existé, mais le mouvement Trump, parce que Trump n'est pas un individu, c'est un mouvement, ce sont des gens qui pensent qu'il y a la population blanche qui est en train de perdre, entre guillemets, le contrôle aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas assez de natalité, et que ce qu'ils appellent le wokisme, ça veut dire cette culture un peu anti-famille, trans, qui promet le trans. N'oublions pas que Obama, quand il arrive, il légalise le mariage homosexuel, il y a une certaine ouverture, une certaine culture un libéralisme culturel qui est poussé jusqu'au bout et qui est symbolisé dans le wokisme. Il y a aussi le fait qu'à un certain moment, les États-Unis, avec des crises économiques régulières, ça c'est l'après 2008, crise économique et financière d'ailleurs, avec une certaine fragilité dans la concurrence avec certains pays, dont la Chine en particulier, on voulu se repositionner en tant que centre du monde, du moins garder les leads. Donc le mouvement Trump, c'est une réponse. Alors ça c'est le camp de nationalistes qui pense, non, le mouvement Trump est un, c'est le camp de nationalistes qui pense que les États-Unis doivent revenir sur leurs fondamentaux. Mais comme je viens de le dire, les États-Unis c'est un pays très compliqué parce que on ne sait pas voir souvent très bien la différence en termes de leur politique étrangère, que ce soit pour le camp Trump ou pour le camp que ce soit pour le camp démocrate ou pour le camp républicain. Mais au moins ce que je vois, et ce que je comprends, je peux après me faire compléter ou corriger par les autres, ce que je vois et comprends, c'est que le clivage n'est pas essentiellement en termes de la politique étrangère, parce que ce soit Trump ou que ce soit les démocrates ou les républicains, la Chine reste le grand problème, par exemple. Mais c'est plus en termes de est-ce que l'on devient le chien de garde du monde, ou on se concentre sur notre nation. Bref, est-ce qu'on est mondialiste ou on est un peu nationaliste, voire ultra-nationaliste.
Donc pour vous, c'est ça le lien de disparité.
C'est ça le clivage.
Alors
c'est
les démocrates, eux, ils sont pour le mondialisme, alors que les républicains, c'est d'abord...
Make America Great Again, c'est notre nation, c'est une nation blanche, c'est elle qui doit être le leader du monde. On va se concentrer d'abord sur notre propre économie, en renforcer les forces. Un tweet de Elon Musk a été très révélateur. Il a parlé de Novosibirsk, qui est sur le billet $1. Après, on peut interpréter ça de plusieurs façons, mais c'est le cercle. Et Trump aussi est revenu sur son Truth Social, les réseaux sociaux, en disant là, un nouvel âge d'or pour l'Amérique. Mais c'est d'abord l'Amérique, et rien que l'Amérique. Et j'insiste, d'abord comme nation blanche. Après, on reviendra sur les conséquences de cela.
Avant d'évoquer en profondeur cet aspect-là, mais pour vous, Mick, qu'est-ce qui justifie l'échec de démocrates?
Les démocrates, je constatais qu'ils sont déconnectés de la réalité de l'Amérique profonde, ce qu'on appelle les « deep states ». Ça veut dire qu'il y a une sorte d'élite ramenée par le média qui gère le cadre macro, notamment le sondage, notamment le média, notamment le bourse. Vous allez voir qu'aux États-Unis, sous Kamala Harris et Joe Biden, ils étaient dans une fausseté économique où les cadres macroéconomiques étaient reluisants, mais tout était en hausse. Je vous donne ça comme exemple. L'inflation à hausse, mais cadre macroéconomique stabilisé. Déconnexion avec la réalité. En fait, on peut donner des signaux que tout va mieux, mais à la base, tout le monde sait que ça ne va pas. Et bon, il y a aussi le valeur. Le valeur, le wokisme. En fait, ils disent, bon, voilà, les autres disent qu'il faut qu'il y ait des homosexuels, qu'il y ait des trans, qu'il y ait
la transition des genres des enfants,
la question aussi de l'avortement. La question de l'avortement qui était très au cœur de la vote. D'ailleurs, c'était le sujet principal de Kamala Harris à la fin de la campagne. Et vous voyez que à ce niveau-là, certains côté républicain, ils ont montré aux Américains, on crée de la richesse, mais on risque de manquer la population pour gérer cette richesse. D'une part, de l'autre part, les républicains, sont les églises baptistes, les églises évangéliques, toute la morale chrétienne qui va avec. Bon, pas que, parce que il y a aussi la morale économique qui n'est pas trop de ce côté-là, parce que eux, ce mec America Great Again a partout le moyen, partout où on peut trouver de quoi rendre l'Amérique fort, on les prend par force. Kamala, il y a aussi le fait que Kamala Harris a commencé la campagne en retard. 3 mois de campagne. Il n'y a pas eu de primaire chez les républicains. C'est comme si c'est une femme parachutée adoubée par Joe Biden et Obama et les clans Obama pour qu'il soit là. Mais après, on s'est rendu compte que la femme ne faisait pas le poids. Mais il faut voir un côté providentiel. Trump, c'est qui? Les Américains aiment, c'est un peu les westerns. Ce sont les Yankees. Ils aiment le héros. Vous voyez tous leurs films. Trump, c'est qui? Vous avez parlé de 4 procès au pénal, mais en tout, c'est 37 procès. Donc, avec une condamnation de 3 ans, et s'il n'est pas en prison, c'est parce qu'il a interjeté appel, et comme l'appel est suspensif, et comme sa candidature a été acceptée, on devait... voilà. Et puis, c'est 2, donc 37 procès, une condamnation, 2 attentats, dont un l'a raté de justesse. Et qu'est-ce qui a fait qu'il gagne? C'est parce que son principal challenger, 2 jours après son attentat, lui, il a laissé la main. Et l'interprétation intrinsèque sur le plan leadership des Américains, ils ont dit, bon, c'est parce qu'on l'a raté, c'est parce qu'il laisse à Kamala Harris. Et Kamala Harris, on a senti qu'elle n'était pas assez bien préparée pour ça, parce que on n'a pas senti que Kamala Harris avait le mot de la verbe par rapport à Trump. Donc, Trump, bien que tous les sondages, bien que tous les médias globaux montraient Kamala. Si vous suiviez France 24, moi, le jour des élections américaines, je commence la télévision, je ne dors même pas. Vous sentiez avant les élections comme si c'était déjà une chose faite, jouée, qu'on attendait juste la proclamation, mais c'était un des convenus. Et c'était le même cas en 2016, pour ceux qui ont encore suivi. Donc, il y a la globalisation. qui n'a pas marché, la globalisation qui est en train de perdre pédale. J'ai suivi un des discours de Trump. Il a dit aux dirigeants du monde que si vous voulez la démocratie, luttez pour votre souveraineté. Si vous voulez la prospérité, travaillez pour votre nationalisme. Et il dit que le monde appartiendra. Le monde appartiendra plus aux nationalistes et aux patriotes que aux globalistes, donc aux mondialistes.
Donc il demande aux États de se renforcer d'abord à l'intérieur.
Il demande aux États de se renforcer à l'intérieur. Est-ce que vous avez dit, on va arriver par rapport à l'Afrique, il y a la matière est qu'ils négligent l'Afrique. Ils ne sentent pas que les Africains tiennent leur destin en main. Alors, ils sont bons pour être cueillis, pour être... on y reviendra lorsqu'on va parler de cette question de manière particulière, mais je me limite d'abord par là.
Idé Bakoulou, que représente, que représentera Elon Musk dans la dimension économique que va mettre sur pied Donald Trump pendant toute la période de son mandat? Et pour vous, est-ce que sa présence aux côtés de Donald a joué de quelque part pour son élection?
Oui, je crois beaucoup. Quel deviendra-t-il? Il va devenir ce qu'il est toujours, un milliardaire, quelqu'un qui peut influencer la politique américaine et la politique du monde à la fin. C'est pour cela que quand je suivais la campagne des deux, en fait, chacun a fait ce qu'il pouvait, mais j'ai vu les faiblesses et les forces de chacun. Kamala Harris a fait la campagne comme si l'Amérique est fragmentée. C'est ce que j'ai remarqué. Il s'adresse aux homosexuels, par exemple, aux transgenres, aux femmes, aux noirs, aux hispaniques, aux je ne sais pas qui. C'est comme ça qu'elle a fait la campagne. Donald a fait la campagne de l'Amérique. Donc, une Amérique. Amérique. Mm-hmm. Pas une Amérique de petites communautés, comme je viens de le dire. Et Trump, dans tout son discours, tu vois, c'est vraiment l'Amérique. L'Amérique d'abord. Mm-hmm. Et c'est aussi une faiblesse de son côté. L'Amérique, elle est Amérique parce qu'il y a le monde autour. On parle de l'Amérique parce qu'il y a le monde autour. Et on est dans un monde de technologie. Elon Musk, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le monde de la technologie. L'Amérique n'a pas tout pour faire, pour émerger dans la technologie. Elle doit aller chercher ce qu'il faut pour émerger dans la technologie ailleurs. Donc, l'Amérique de Trump, le rêve de Trump, ne se réalisera pas sans le reste du monde. Et on va voir pour l'Afrique ce que ça deviendra, mais il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de ces élections aux États-Unis, surtout sur le plan de la communication. Mick vient de le dire, quand vous suivez les médias français, vous n'allez pas vous attendre, vous pouvez même piquer la crise par rapport aux résultats. Mais on se demande alors maintenant, ces médias-là, qu'est-ce que ça faisait?
Propagande.
Est-ce que ce média-là suivait réellement ce qui s'est passé aux États-Unis? Parce que même le soir du jour des élections, à France 24, on disait encore, même à RFI, on disait encore, les résultats est très très serré.
Mais c'est rien.
Très très serré, donc. Peut-être qu'il y aura seulement deux grands électeurs de différence. Mais quand on voit maintenant les résultats finaux, c'est terrible. Donc, il y a cette leçon-là pour voir comment les médias peuvent manipuler
l'opinion.
Et dans les cas d'espèce, quand nous rentrons en Afrique, ce serait terrible, hein? Parce que nous sommes vraiment très manipulés par ces médias-là internationaux qui vous vendent ce qu'eux veulent.
Ça, c'est très important. Hein?
Qui vous vendent ce qu'eux veulent. Ils ne sont pas dans les réalités, en fait. Oui. Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils ne parlent que de ce qu'ils veulent. Mais ils ne parlent pas de la réalité. C'est pour cela que beaucoup d'Africains ont des problèmes. Quand vous voyez les comparaisons qu'il y a entre tel président et tel président, vous n'allez pas vous... par rapport à la réalité. Quand vous voyez, par exemple, le Gabon qui fait le coup d'État,
le Burkina Faso qui fait le coup d'État, quand vous voyez comment les médias étrangers traitent les deux, vous n'allez pas vous rendre, vous n'allez pas vous retrouver. Donc les médias, la façon, la communication autour de ces élections a été d'une grande leçon pour moi. Vraiment d'une grande leçon pour moi. Maintenant, l'Amérique dans l'Amérique, c'est vraiment, c'est d'abord l'Amérique, et c'est vrai ce qu'ils disent, vous devez d'abord vous construire à l'interne avant d'aller à l'externe. Et c'est ça que Trump dit. Bon, de toute façon, l'Amérique, c'est pour les Américains qui ont, ceux qui ont fondé l'Amérique, quoi.
Merci beaucoup. Nous allons à l'autre partie de cette réflexion. Quelle sera la place de l'Afrique dans la politique de Donald Trump quand on se rappelle que pour son premier mandat, il n'a effectué aucune visite officielle sur le continent? Contrairement à ses prédécesseurs, nous l'avons dit, Barack Obama a visité 7 pays et George W. Bush en a visité 11. Et à un moment, il avait qualifié Haïti et les nations africaines de pays de merde. Joseph.
Bon, c'est langage ordurier de Trump. On en est habitué. On en est habitué. Il parle comme un homme de la rue. Et peut-être c'est une stratégie politique. Elle l'a payé aussi dans notre pays. Même si elle fatigue avec au sujet de la Constitution, mais c'était une parenthèse. Bon, maintenant, quelle est la place de l'Afrique avec ce retour de Trump? Alors, permettez-moi que je fasse une digression, et puis je vais revenir à la question. J'espère ne pas abuser du temps. La digression, c'est celle-ci. Quel est l'état du monde actuel? Comme je l'avais dit dans la présentation, il y a deux élans dans le monde essentiels. Et tout l'avenir du monde, Trump l'avait si bien résumé. Poutine l'a déjà compris, l'a dit plusieurs fois. Récemment encore, il a dit il n'y aura pas de nouvel ordre mondial. D'autres continuent à enraciner leur nation dans ce jeu. Il se résume au fait qu'il y a des mondialistes qui pensent que le monde doit aller vers la gouvernance globale. Et il y a des nations qui pensent qu'elles ne survivront pas dans le cadre de la gouvernance globale. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point de mon tour discursif, c'est que le monde traverse quatre grandes crises actuellement. Une crise démographique, une crise économique et financière demain, une crise... Alors les États-Unis en particulier, ils sont vraiment au cœur de cet élan parce que les États-Unis font supporter à d'autres nations leur propre inflation. Si vous suivez Poutine et Xi Jinping en particulier, il rappelle, Poutine parce qu'il est très tranchant, il a été très fort dans cette confrontation, il a dit qu'il y a eu des siècles d'exploitation. Ce qui me ramène, parce qu'il s'agit de l'Afrique, en 1500. Qu'est-ce qui se passe en 1500? C'est que en 1500, c'est 1400, déjà fin 1400, donc 15e siècle, c'est que les Européens font l'exploration de ce continent et ils les trouvent très riches. Dans notre centre de recherche, nous appelons ce moment là-bas la première phase de l'ère impériale. La première phase de l'ère impériale. La deuxième phase de l'ère impériale, c'est ce qu'on va appeler plus tard le scramble for Africa, la ruée vers l'Afrique, ce sera la colonisation. Mais la première phase était l'ère de l'esclavage. Qu'est-ce qui va être mis en place à partir de l'esclavage? C'est une économie triangulaire, comme on l'a appelé, où nous, les Africains, nous donnions la main d'œuvre, qui allait cultiver au niveau du nouveau monde, l'Amérique et tout le reste, et la richesse qui était produite allait en Europe, pour enrichir l'Europe, voilà. Mais c'est tout cela va continuer comme ça, et puis il y aura des luttes. Les Américains vont avoir un problème avec les Anglais et tout le reste. Comme l'Afrique, on a découvert que l'Afrique régorgeait beaucoup d'éléments et les surplus de la production de richesses. En fait, c'est nous qui avons fait la richesse de ces nations. Parce qu'avec une main d'œuvre, imaginez que vous, tous ces travaux qu'on est en train de demander qu'on fasse ici chez nous, imaginez que vous aviez à le faire avec une main d'œuvre que vous ne payeriez pas. Et puis de milliers de personnes que vous tuez, que vous tapez, que vous faites tout ce que vous voulez, vous auriez produit des richesses immenses. Immenses et gratuitement comme ça. Donc ça a fondé les nations. Mais et puis, il y a séparation entre les Amériques. Les Américains font leur indépendance, les Anglais gardent. Mais on a découvert que l'Afrique régorgeait beaucoup de choses. Maintenant, pour éviter qu'eux s'effacent la guerre,
pour éviter qu'ils se fassent la guerre. Ils se sont dit, retrouvez-nous à Berlin. Parlons de comment on va chacun exploiter sa partie de l'Afrique. Maintenant, là, c'est les Scramble for Africa, conférence de Berlin.
La ruée vers l'Afrique.
La ruée vers l'Afrique, ils vont redistribuer l'Afrique. Qu'est-ce qui va se passer encore en ce moment là-bas? Et là, je parle de l'histoire de l'usure, en fait. Parce que qui ont fait assez que ces commerces triangulaires aient lieu? Ce sont des banquiers, ce sont des gens qui investissaient et qui faisaient l'argent gratuitement comme ça. Et qui a fait, c'est toutes ces familles dont on parle, les Rockefeller, les Rothschild et tout le reste. Si vous revenez, j'ai pris le temps de lire et de rechercher, vous allez vous rendre compte qu'ils ont toujours joué un rôle dans ces productions de richesses de masse à coût gratuit. Et vous savez, deuxième élément que je souligne en termes de finances, que vous savez qu'en ce moment là-bas, la monnaie, le type de monnaie qu'on a, l'or joue un rôle très important et l'argent. Ça veut dire que pour faire les échanges, les gens savent qu'ils peuvent le faire à partir de richesses qu'ils ont, des richesses réelles. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je reviens sur ça, avec l'or. Après, il s'est distribué, conférence de Berlin, il pille, colonisation, je m'arrête, je vais vers la Première Guerre mondiale. Ce qui va se passer avec la Première Guerre mondiale, c'est qu'une fois encore, ils ont des problèmes en termes de marché et tout le reste, même si après ils disent qu'il y a eu des problèmes politiques, mais c'est souvent commercial. Je saute, je vais à la crise de Subprime en 1929. On a toujours dit qu'il y avait des chantages, des boursiers, ainsi de suite, mais j'ai lu un article très important, il nous concerne, nous les Africains, c'est que s'il y a eu cette crise là-bas, c'est parce que la colonisation perdait de son souffle. Ça veut dire qu'il y a eu des nations africaines qui ont commencé à se dire à un certain moment, même chez eux, ils ont changé des politiques, et comme la main d'œuvre, vous voyez, quand on a produit trop de richesses gratuitement, et qu'on se retrouve qu'on a beaucoup de richesses qu'on a produites, mais qui ne rentrent plus dans un circuit. Parce que pour que la richesse qu'ils avaient produite trouve un cadre dans lequel ils pouvaient évoluer normalement, il fallait que les Africains, eux aussi, aient évolué, comme ça on aurait des très grands marchés dans lesquels tout cela serait déversé.
Un
débouché, en fait. Mais ils ont produit trop de richesses, ils n'ont pas de débouchés, tout cela finit par une crise. Une fois encore, le dollar est toujours la monnaie de change. Deuxième guerre mondiale arrive, ils vont mettre, c'est les Bretton Woods qui arrivent, ils mettent la monnaie, mais ils disent, c'est la convertibilité devient or, dollar et tout le reste devient... Donc, il y a toujours convertibilité entre le dollar et l'or, et les autres nations, ils peuvent utiliser le dollar pour échanger, mais quand même, ils ont quand même de l'or comme support. Et on continue, c'est là le problème maintenant, la base de la crise, 1972, Nixon décide de briser le lien entre le dollar et l'or. Et avec la crise des subprimes en 1929, le président Roosevelt, avec le New Deal, avait mis une loi qu'on appelle la loi Glass-Steagall, qui interdisait que les banques d'investissement ne devaient pas être aussi des banques d'épargne. Ça veut dire une banque dans laquelle on garde l'argent, ainsi de suite, ne devait pas être aussi celle qui émet la monnaie pour qu'on aille le distribuer. Voilà la loi Glass-Steagall. Et tout cela avec... Cette loi sera affaiblie les années 70 pour être abolie les années 90. Quelle est la conséquence de tout ça? Les États-Unis, donc, ils vous expliquent qu'ils peuvent imprimer de l'argent. Ils impriment l'argent comme ils veulent. Et puis, ils le veulent, tout le monde supporte ça. Imaginez qui avait essayé d'imprimer l'argent comme il voulait et quelle était la conséquence. Mobutu. On a vu ce qui s'était passé chez nous. Ça, tu n'as allé ou à Niayote. Ça veut dire qu'on a bourreté à Makuta. Non, à Chindwa, Gissi, à Kouifa. Et ils avaient mis des institutions, je reviens sur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour parler de leur organisation, ils avaient mis en place des institutions qui permettaient ces looting des nations, des pillages donc des nations. Parce que quand ils mettent en place des politiques d'ajustement structurel, ainsi de suite, qui vont affaiblir Mobutu et tout le reste, de quoi il s'agit en fait? Toute l'Afrique et les pays du tiers monde, qu'est-ce qui va se passer? Donc ils vont mettre un système, je suis en train de chuter, ils vont mettre un système dans lequel ils peuvent venir avec des lois au consensus, qu'ils vont appeler plus tard consensus de Washington, mais qui sont les mêmes choses. Libéraliser l'économie, ouvrez, faites ceci. Produisez parfois l'agriculture. Regarde, on vous demande de produire du coton, mais vous ne pouvez pas manger du coton. Mais pour que l'argent que vous allez avoir aille payer le service de la dette. Mais vous allez vous appauvrir. Eux, ils accèdent aux matières premières et tout le reste, et ils vous piquent comme ça. Et ce système va continuer. Maintenant, certaines nations vont dire non, il faut que ça cesse comme ça. ils vont négocier que l'on repense le système financier international. Parce que les nations, les États-Unis ne peuvent pas continuer à vivre sur les dos des autres nations. Ils avaient créé une bulle financière qui était insupportable pour les autres. La Chine et les... Ils sont en train d'aveler vers le BRICS, en fait, si vous me voyez venir. Donc, les autres nations vont dire, écoutez un peu, il faut que l'on s'assoie et que l'on repense. Même à Arusha, les pays africains, j'ai lu, je ne sais plus l'année, mais à Arusha, les pays africains s'étaient réunis aussi, les pays non alignés, et en particulier ceux africains, s'étaient réunis aussi pour penser une alternative aux politiques d'ajustement structurel et au règne du dollar pour demander qu'ils aient la possibilité d'échanger entre eux. C'est tout ce monde là-bas qui est en train d'aller à sa fin. C'était ça la préoccupation.
Ouais.
C'est tout ce monde allé qui était
à sa fin. On la place de l'Afrique à ce 21e siècle sous ses grands mandats.
Pour le jeu mondialiste parce que Trump représente les nationalistes.
Justement.
Mais il dit nationaliste, mais quand même, look a great gain. Quel est le rôle maintenant de l'Afrique? Le rôle de l'Afrique est que les nations puissantes qui ont émergé, il était déjà revenu, ils ont tous besoin d'accéder aux matières premières des Africains pour construire leur richesse. Mais entre-temps, vous êtes dans un cadre où le système financier est à bout. C'est pour cela que je fais tout ce rappel là-bas. Marché financier, il est la bulle. On dit parfois, la crise de 2008 nous rappelait qu'attention, cette bulle allait exploser à un moment ou l'autre. Donc, ils ont besoin de nos matières premières pour... ils nous appellent même réservoir, un concept injurieux, mais ils appellent réservoir. Hein. C'est comme si nous gardions pour eux. Voilà. Tout cela est en train d'aboutir à ce qu'on a appelé maintenant la nouvelle ruée vers l'Afrique. Le New Scramble for Africa. Où ces nations là-bas, c'est pour cela, je finis, hein. L'Africom que les États-Unis avaient installé chez nous, en Afrique, c'était pour contrôler quoi? La route qui passera par l'Angola en quittant la Tanzanie, ainsi de suite. Je tiens à rappeler qu'elle a évité les grandes villes. Elle a évité des villes très peuplées parce que, bon, pourtant, ce serait là ce qui serait intéressant. Mais elle a préféré passer par les forêts. Les forêts, ça ne nous sera pas grand-chose qu'à évacuer encore nos minéraux à partir de l'océan Atlantique. Ces mondes-là où on est, la RDC est sollicitée entre la Chine, on met la pression un peu à notre président et au gouvernement pour qu'on laisse un peu des temps à la Chine, ainsi de suite. Tout cela implique
si je comprends bien, c'est une nouvelle ruée vers l'Afrique.
Oui.
Et ça demande aux pays africains de se positionner.
Ça va conduire un choc entre ces nations pour contrôler les richesses, les ressources de l'Afrique. Et je rappelle que les États-Unis sont en faiblesse, les Chinois sont en faiblesse sans tout cela. Et si on ne se prépare pas, ça sera très mal.
Et devant cette ruée, quelle position faut-il adopter, Mick Moutiki?
Oui, je vais donner la position, mais je vais donner l'actuel état de la dynamique économique globale. Après l'or dollar, on est entré dans le pétrodollar. Ok? Et c'était le socle de l'alliance entre l'Émirat, comment on appelle ça?
L'Arabie Saoudite
et les États-Unis.
L'accord
a expiré. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a refait alliance avec l'Iran dans le cadre de l'OPEP.
Oui.
Et aujourd'hui, le dollar n'est indexé à rien à part au trésor américain.
Et ça, c'est très important ce qu'il vient de dire.
Il faut relever cette notion-là pour compléter l'analyse de mon frère et comprendre la situation.
Pardon, une parenthèse. Maintenant, on peut payer le pétrole en dehors du dollar. Poutine y est revenu. Ils se sont tirés eux-mêmes.
En fait, la providence a fait qu'avec les sanctions que les Européens ont fait à Poutine, alors le système pétrodollar s'est liquéfié et même le SWIFT est en train de se liquéfier parce que le BRICS Plus aujourd'hui représente plus de 43% du PIB mondial et ils sont en dehors du système macro et même nous autres, les Africains, avons des économies informelles qui ne rentrent pas dans le système et donc vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que les Occidentaux contrôlent maintenant.
Okay.
Alors, quel est le problème à ce moment? Le monde est devenu un champ de deals. Des deals entre tous ceux qui ont l'argent et tous ceux qui ne l'ont pas. Et il n'y a plus de philosophie.
Les États, en réalité, devraient quitter, par exemple pour la RDC, quittons la RDC de Lumumba, de Kimpanvita, de Kasavubu. Arrêtons de chanter cela et commençons à chanter la RDC de l'or, la RDC de l'uranium, la RDC de cobalt, pour être, je ne sais pas si les gens me captent, pour être en adéquation avec où va le monde. Parce que toute philosophie qui ne sera pas économique ne va pas survivre. Les nations ont des totems. Ce sont des animaux. Ok, ça veut dire qu'il n'y a pas, en réalité, au marché, il n'y a pas de loi. Celui qui a l'argent, il achète pour ce qui est. Tu peux avoir des ressources naturelles, mais si tu n'as pas une forte puissance sécuritaire, la ruée vers l'Afrique, on prendra ça. Il y a ouf et les, comme on dit, parce que tu ne sais pas protéger tes richesses. D'où, vous pouvez vous imaginer dans quelle situation le Congo se retrouve maintenant. La Chine a déjà avancé ses pions. Et vous savez de quelle manière la Chine fait. Je suis de Mwenga, je sais ce que la Chine fait. En tout cas, je peux vous dire...
Les entreprises qui exploitent les ressources naturelles...
Là, c'est des entreprises chinoises. C'est alors sans pitié, et voilà. Et j'étais subjugué, un jour je suis dans un salon avec certains Américains qui vous disent, nous les Américains, nous soutenons l'exploitation artisanale. Ah, je suis allé réfléchir. Ça fait quoi qu'on vous garde d'abord en réserve, ok, en attendant que nous puissions placer tous les pions pour venir bien prendre. C'est ça le sens. On laisse les petits Chinois venir prendre, mais quand eux ils viendront, ça sera la forte industrialisation.
Ils ont fait déjà Abyssinie.
Et Abyssinie, vous avez, Walikale, vous avez vu avec quelle capacité ils sont capables d'exploiter. Donc c'est à ça que nous nous attendons.
Face à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, vous avez fait allusion à la ruée vers l'Afrique avec le New Deal. Donc ce sera un monde des dealers en face. Que faut-il faire, la RDC? Elle doit consentir à ses ressources, disons céder certaines de ses ressources pour attirer la sympathie de Trump afin de réduire l'influence du Rwanda. Qu'est-ce qu'il faut-il faire devant une telle situation?
Il n'y aura pas de sympathie dans cette affaire. D'abord, le mot sympathie n'aura même pas sa place. Ça sera une ruée. Ça veut dire « Mwenyengu wana lubeba ». Au fait, en lingala, on dit « Opoli, olongwe, okatani, otamboli ». Ça sera ça. En swahili, on dit « Vuta, nikuvute ».
Mais tu ne peux pas la mouzouri.
Non. Le problème, c'est quoi? Voici comment ça se passe pour la RDC, l'est de la RDC. Ça veut dire le flanc du mont Mitumba, du nord Katanga jusqu'à Nituri. C'est là où il y a l'enjeu. C'est là où il y a tout ce qu'on cherche au Congo. Bon, à l'exception,
une partie de cobalt aussi.
Une partie de cobalt de l'autre côté, mais vraiment la grande quantité. Mais comment ça va se passer? Hubert Védrine, qui est un des plus grands diplomates européens, dit que les Chinois, ils prennent déjà toute la chaîne d'alimentation du cobalt jusqu'à la fabrication de batteries électriques. Alors, le voiture électrique chinoise commence à envahir le marché européen et américain. Il dit, pour ça, nous serons obligés de taxer 100% pour nous en sortir parce qu'ils ont pris tout le marché. Les Américains, ils disent, nous aussi, les Chinois, s'ils continuent comme ça, parce qu'ils voient que la ruée, les Chinois ont tout sur le marché, ils disent, nous allons commencer à... Ça, c'est sur le plan économique. Maintenant, rentrons sur le plan sécurité, parce que, sachons que la sécurité n'est conditionnée que par l'économique. Tout ce qu'on va vous dire ici, la sécurité des pays voisins qui viendraient se jouer ici en RDC, les dernières, les interamoués, parlons sécurité un peu. Le phare, avec comme phare, c'est l'ancienne force armée rwandaise de l'époque d'Abiarimana, avait une moyenne d'âge de 33 ans. Ok? Donc, transposer 30 ans plus tard, c'est 63 ans. Et le dernier rapport de la DDRRR de la MONUSCO, en tout cas avant, hein, ici, ça renseigne que les interahamwe ne dépasseraient pas 2000.
J'ai lu même un qui parlait de 500.
Voilà. Maintenant, extrapolons même ça à 5000. Comment 2000 vieillards de 63 ans insécuriseraient une si bonne armée du Rwanda qui a fait ses prouesses en Haïti et partout? Donc cette question de la sécurité des pays voisins qui se joueraient en RDC, c'est un faux fuyant. La question, elle est purement économique. Le deal ici, il est comment? Ça dépendra du sérieux. Voici. Ce n'est pas que le Rwanda, et c'est là où on fait tout faux. Tous les pays voisins ici, à l'exception de deux que je ne citerai pas ici, mais tous les pays voisins de la RDC, leur marchandise à l'international, la stabilité de leur régime dépend du secours qu'ils ont vendu sur le Congo. Ils disent quoi? Nous pouvons contrôler pour vous la RDC. Parce que ces gens-là ne sont pas sérieux en business. D'abord, ils n'ont pas la notion du bien commun. Regardez, attendez un mois. Oh, tel a détourné 200 millions de dollars. Mais ils ont un budget de combien? Ils ont un budget de 5 milliards. Et tel autre a détourné 300 millions. Mais ils ont un budget de combien? Voilà, nous vous disons que ces gens ne sont pas sérieux. Laissez-nous contrôler pour vous. Parce que la notion de la puissance, c'est la force des forces. La puissance, c'est la capacité de faire et de faire faire. Et du coup, au Kivu, l'est de la RDC, le pays voisin, disent que ce que vous cherchez dans le mont Mitumba, nos influences, nous allons vous les donner. N'oubliez pas la notion de la ruée. Produire, avoir les choses facilement.
Et très rapidement,
sans trop de conditions. Et la souveraineté de la RDC commence à apparaître comme un frein à cette ruée. Où la RDC se verra effritée, c'est une probabilité, pour avoir des petites entités facilement contrôlables, où la RDC va être mise là comme un tonneau vide sans contenu, et alors les pays voisins, l'influence de laisser avoir un président congolais qui accepte l'influence des pays voisins pour venir faire ce qu'ils veulent, alors il n'y aura aucun contenu à la RDC, on vivra tel qu'on vit aujourd'hui.
Donc, c'est-à-dire que c'est une fausse théorie, celle avancée par certaines personnes estimant que les guerres vont cesser, notamment en Afrique et peut-être à l'est de la RDC, parce que ce sont les nationalistes qui accèdent au pouvoir, différemment de mondialistes qui entretiennent des guerres pour accéder aux ressources.
Non. En fait, la guerre, je ne sais pas comment vous percevez la guerre. Nous sommes 30 troupes, nous avons 30 ans de guerre, mais nous n'avons jamais déclaré la guerre. Vous percevez ça? Sur le plan du droit international, la RDC n'est pas en guerre contre le Rwanda, contre l'Ouganda et contre qui que ce soit. Il y a juste de petits rebelles qui font un peu de bruit. C'est ça. Donc nous ne sommes en guerre contre personne. Alors que si vous remontez la chaîne, vous allez retrouver... J'ai vu à un certain moment, le président congolais voulait même ententer son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a voulu ententer un procès contre Apple. Vous vous souvenez, c'est trop récent. Ouais. Et puis, c'est la diplomatie qui lui a dit non. C'est pourquoi, première piste pour la diplomatie congolaise, allons voir les gars de Tesla, Elon Musk. N'allons même pas dans les salons de State Department. Maintenant, là, il faut aller chercher Elon Musk. Pour dire aux gars, we are Congolese, tuko na Mali, ou kou yezita kusaidia kwa ima projet zako, ou angale gisutakia. Sinon, le Rwanda le fera pour nous, sinon l'Ouganda le fera pour nous, et quand ça arrive à ce niveau-là, il n'y a pas démocrate, il n'y a pas républicain, it's business. Au fait, nous avons, les Congolais, la mauvaise façon de penser que personne d'autre au monde ne pense du Congo. Tu vois, quand quelqu'un...
Tout le monde pense du Congo, mais pas pour le Congo.
Non, je vais vous expliquer. Quand un Mzungu va au Rwanda, vous voyagez, vous quittez par exemple, il quitte les États-Unis, Francfort à 10, Kigali par exemple, En cours de route, si tu es congolais, il va te poser la question. S'il va à Kigali, il va te poser la question pour le Rwanda. J'ai appris qu'il y avait de belles femmes au Rwanda, leur ville était propre et tout et tout. Mais pour les Congos, il ne te posera aucune autre question en dehors des ressources. Comme s'il n'existait rien au Congo à part le cobalt, si c'est le cobalt, le coltan, si c'est le coltan. Amenons le Congolais à penser comme ça, on quittera les sentimentalismes ambiants autour des Trump, il faut voir le système global. Eux aussi, tu vois, ne pense pas que c'est pour rien qu'Elon Musk a financé. Elon Musk a besoin de beaucoup de matières premières. Il a osé, il est dans les voitures électriques, il est dans les trucs spatiaux nucléaires qui demandent beaucoup de matières ici. Et pour ça, ne vous en faites pas. Trump n'a pas fait de guerre, à l'exception de tous les présidents des États-Unis. Un élément important, avant George Walter Bush, les cinéastes Ronald Reagan, tous les présidents américains ont signé une guerre. George Bush 1, Irak 1, George Bush 2, Irak 2,
Obama,
Clinton. D'ailleurs, on dit que c'est lui qui est même l'artisan de tous les dépassements du Grand Lac, mais aussi avec la guerre en Afghanistan. Venait, c'est seul lui qui n'a pas déclaré une seule guerre. Son prédécesseur vient de signer la guerre en Ukraine. Bon. Il y a aussi les problèmes que nous oublions. Les Européens, qui sont le premier sous-traitant des États-Unis, ils sont dans une situation sans dessus, sans dessous. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire actuellement. Bon, et là, tout ça, bon, tout ce qui... voilà.
Voilà, Monsieur Idé Bakoulou, face à la ruée que Joseph et Mika ont développée tantôt, comment faut-il se positionner?
Bon, merci beaucoup. J'ai aimé qu'il rappelle cette histoire de l'esclavagisme, de la colonie et où on est aujourd'hui. Si vous... Bon, aujourd'hui, il n'y a plus raison, il n'y a plus de raison de dire on va avoir un autre ordre mondial. L'ordre mondial qui était jusqu'alors tourné autour des Nations Unies. Autour des Nations Unies. Aujourd'hui, on se rend compte que les Nations Unies sont devenus une coquille vide. Poutine peut faire ce qu'il veut en Ukraine. Personne, les Nations Unies sont faibles.
Israël
peut faire ce qu'il veut. On est faible. Et nous sommes dans un ordre où nous disons toujours que nous avons raté la pré-indépendance parce que nous n'avions personne. Donc à l'indépendance, il n'y avait pas de ressources humaines. Mais c'est maintenant que ce sera plus grave. Nous ne sommes pas préparés à affronter l'ordre qui vient. Avec le niveau de la corruption qu'il y a dans le pays, avec le niveau de la corruption, personne ne va traiter avec nous à part les Chinois. À part les Chinois, les Indiens. Aucune personne sérieuse, aucune entreprise sérieuse peut venir aujourd'hui traiter avec nous. Moi, je vois que les gens se déplacent. J'ai suivi la fois passée que le gouverneur avait vu les investisseurs en Belgique. Ben, c'est bon. Mais quel investisseur va venir là où on dit qu'on est en train de se donner autant d'argent?
On ne peut pas voler tant que ce n'est pas 10 millions, par exemple.
On vole en termes de millions.
Quel investisseur va venir si on est dans cette histoire d'insécurité? Quel est cet investisseur? Sérieux, je veux dire, parce que quand tu vois Kinshasa, ce que les Indiens font à Kin, vous n'allez pas croire. L'immobilier, qu'on soit, il a parlé des subprimes. Beaucoup de pays africains, prenons une ville comme Kigali. Quand vous voyez la ville de Kigali, quelle richesse peut soutenir cette ville-là? Quelle richesse peut soutenir cette ville-là? Dans peu de temps, en tout cas dans peu de temps, ce sera comme un château. Un château construit sur du sable. Donc ça va s'effondrer. comme Kinshasa aussi, à un certain moment, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui mette fin à la corruption. C'est fini. Ça va s'effondrer. Parce que personne ne paiera encore des appartements au loyer de 5 000 $ s'il n'y a pas corruption. Il n'y a pas d'affaires dans ce pays. Il n'y a pas grande affaire qui puisse supporter un loyer comme celui-là, un loyer mensuel comme celui-là. Donc, si en 1960, on n'était pas préparé, en tout cas maintenant, on est encore très très loin du compte. Et c'est là pour plusieurs pays africains. Pour plusieurs pays africains. Comme l'a dit Miki, comme il l'a dit, nous sommes dans une euphorie que parce que les républicains viennent, je ne sais pas qui a mis ces idées dans les gens, la politique externe américaine, elle est la même. Elle est la même. C'est d'aller chercher les richesses pour les États-Unis. C'est d'aller traquer tout le monde qui peut amener des problèmes aux États-Unis. Tout le monde qui peut amener les problèmes aux États-Unis. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne va pas changer grand-chose, en tout cas. Si la politique, c'est de venir prendre les matières premières, s'ils ne peuvent pas dealer avec nous parce que nous sommes moins sérieux, ils vont dealer avec quelqu'un. Qui ira prendre les matières premières et les leur donner? Les gens crient au scandale, même les Européens, même. Ils crient au scandale parce que l'Union Européenne a signé un contrat avec le Rwanda pour l'approvisionnement en matières premières. Mais ça, ça devrait nous révéler, ça devrait nous réveiller en fait. Ça devrait nous réveiller. Pourquoi ils signent avec, au lieu de signer avec le propriétaire, vous signez avec un commissionnaire qui ne va pas venir discuter avec le propriétaire, mais qui va venir prendre. Donc, l'élection de Trump, ici chez nous, dépend du niveau de sérieux que nous avons. Déjà d'ailleurs, aujourd'hui, nos échanges avec les États-Unis ne vont pas au-delà de 100 millions de dollars. Même avec ce qu'ils ont créé là, la GOA.
La GOA qui expire l'année prochaine.
Qui expire l'année prochaine. Bon, j'ai vu que Julien Paluku est en train de négocier pour qu'on reprenne le deal. Mais si on ne va pas au-delà de 100 millions des échanges commerciaux, quelle est l'importance de notre pays vis-à-vis de ce pays-là? Quelle est l'importance? Il n'y a aucune importance. Donc, on ne va même pas nous regarder. On va nous regarder sur une seule chose. Les matières hautement stratégiques que nous regorgeons et qui ne sont pas dans les circuits normaux. Ils ont les matières premières sans passer par les circuits normaux. Donc, aussi longtemps que ce circuit-là pourra toujours approvisionner,
tant mieux pour eux.
Tant mieux pour eux. C'est le business. Donc, je crois que nous ne sommes pas à se préparer pour faire de notre pays très important par rapport à la donne Trump aujourd'hui, qui, vous l'avez lu là, ne s'intéresse pas trop à l'Afrique. Mais Elon Musk s'intéresse à l'Afrique.
Ouais.
Les autres là qui sont autour s'intéressent à l'Afrique. Et c'est eux qui diront, non, il y a ceci, il y a cela. Et en plus de tout cela, en plus de notre façon que nous devons changer, en tout cas, si nous voulons jouer un rôle, il faut quitter ce que nous avons comme plus grand atout, le parler, les discours. Il faut quitter ce monde-là. Il faut absolument quitter ce monde-là. Il faut quitter les showbiz comme Amos, quand il était là, il a parlé des inaugurations. Il faut quitter les inaugurations. Il faut aller dans le travail. Il faut aller dans le sérieux. Vraiment, notre sérieux conditionnera notre survie dans tout ça. Aujourd'hui, le Congo est ce qu'il est aujourd'hui. Presque amputé d'une partie de sa superficie. Je vois comment on attaque cette question-là. Mais avec la nouvelle donne, avec ce qui est en train de venir, comment nous allons nous y prendre? Est-ce que nous aurons encore un Congo qui est vraiment entier avec ce que nous sommes en train d'aller? Un jour, j'ai toujours dit ça. Un jour, je viens d'Addis Abeba. Je faisais Addis Abeba, Lubumbashi. Dans l'avion, c'était Ethiopian Airways. Dans l'avion, on était à peu près à 150. plus de 120, c'était des Chinois. Et l'avion faisait Addis, Lubumbashi et Pindola.
En Zambie.
En Zambie. Et nous avons tous, presque tous débarqué
à Lubumbashi.
À Lubumbashi. Déjà presque tous les Chinois, tous, ont débarqué à Lubumbashi. L'avion est allé à Ndola.
Presque vide.
Presque vide. Je crois qu'il y a tous ces Chinois-là. Et c'est chaque jour presque. Éthiopien va à Lubumbashi, je crois que c'est chaque jour. Et c'est chaque jour qu'il y a des Chinois qui vont là-bas. Quel est le mécanisme par lequel... Maintenant, si, comme ils ont dit, c'est entre les États-Unis et la Chine. C'est entre les États-Unis et la Chine.
Le choc.
C'est le choc. Aujourd'hui, c'est le choc économique aujourd'hui, entre les États-Unis et la Chine. Ici, Mickey l'a dit, chez lui à Mwenga, vous n'allez pas croire, mais à un certain moment, ce pays sera la Chine. La Chine, en termes de population qui vit... Heureusement que les Chinois ne sont pas assez forts dans le faire des enfants, dans la reproduction. Sinon, à un certain moment, il y a des villages qui deviendraient carrément chinois. Tout l'or qu'ils amènent, circuit informel. J'ai vu, le gouverneur faisait des efforts, mais quand vous voyez les statistiques des exportations, il n'y a aucun effort depuis... aussi longtemps que nous sommes dans cet état-là, il ne faut pas nous leurrer parce qu'il y a eu un démocrate ou un républicain qui va au pouvoir, que ça va changer. Non, il n'y aura pas de changement. C'est notre sérieux qui conditionnera notre position par rapport au reste du monde.
Joseph, vous l'avez compris, c'est notre sérieux qui va justement conditionner l'influence des uns et des autres sur nous et l'impact de cette influence. Mais d'entrée des jeux, considérant que les républicains y sont nationalistes, quelle sera la place aux aides et aux subventions en Afrique?
Bon, Trump, alors pour répondre directement à la question, avant de revenir sur ce que papa vient de dire, lui, dans sa politique, c'est de réduire au maximum possible les dépenses qui ne favorisent pas les Américains. Trump, le rôle qu'il pourrait jouer d'ailleurs, c'est celui de l'efficience du gouvernement. Ça veut dire moins d'États possible, et ça fait toujours sourire chez nous quand on voit l'administration, la suradministration qu'on a. Beaucoup de gens qui viennent, le plus grand employeur partout au monde, je sais que oui, que c'est l'État en termes de, mais pour quel travail, tout le monde veut aller à la mamelle de, bon. En tout cas, eux, ils disent qu'ils vont réduire le minimum possible. Je ne sais pas s'il va aller jusqu'à couper l'aide qu'ils font pour certains médicaments sur le VIH, ainsi de suite, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, que ça sera réduit. Mais attention, il faut pas que l'on... Je laisse entendre comme si Trump, il vient comme l'enfer. Non, il vient comme une bénédiction pour son pays. Parce que de toutes les façons, même Macron y est revenu dans un de ses discours qui circule sur les réseaux sociaux. Le monde est fait des omnivores et des herbivores. Et... Si vous ne voulez pas vous en sortir, on va vous manger. Alors il suggère que les Européens soient omnivores, donc ceux qui peuvent tout manger. Ça, moi j'ai été très content d'entendre ça parce que finalement on est sincère. Parce que si les Européens disent qu'ils peuvent être mangés par les Américains, nous les Africains nous sommes quoi alors? Est-ce que vous imaginez si les Européens que nous considérons comme une puissance, ils peuvent dire attention, on risque d'être mangés par les Américains et nous alors? Et ça, c'est très important. Mais non, je dis qu'il ne faut pas laisser penser que Trump, c'est l'enfer. Non, Trump nous rappelle juste, comme on vient de le dire ici, que si vous ne voulez pas vous battre, il vous place devant vos responsabilités. Et que si vous ne voulez pas être sérieux, en tout cas dans ce choc, parce que, comme je l'ai dit, si les Américains ne font pas ce qu'ils doivent faire, parce que si j'étais à la place de Trump, c'est exactement ce qu'il veut faire que je ferais, je vous ai dit que leur monnaie tombera. Et eux, si les dollars qui circulent dans le monde, ne correspondent en rien à la richesse réelle des États-Unis. Maintenant, imaginez si tous ces dollars là-bas, s'ils se projettent que le système BRICS est réussi, hein, et que tous ces dollars-là leur tombent sur la tête. On va avoir
ils vont se rendre compte que Batenga Mouyayote, système Yayote, c'est pour cela qu'ils vont mettre un maximum de pression, et je veux dire maintenant là où le monde va aller, selon les analyses que nous avons faites. Soit les Américains vont faire, que, si, tout système confondu, que ce soit Trump, que ce soit les démocrates, ainsi de suite, vont mettre une très grande pression pour que le système BRICS ne réussisse pas. Et je pense que les systèmes BRICS en ont conscience aussi. C'est pour cela qu'ils veulent pousser très loin leur bouchon pour qu'en fin de compte, ils se mettent ensemble pour mettre en place un nouvel ordre économique. Mais là où ils ont, chacun a dit, bon, on garde le dollar comme monnaie d'échange, mais voilà aussi ce que vous nous donnez. Il est possible qu'on va passer par là. Soit si les Américains disent, parce qu'il faut se rendre compte que ce sont des gens, comme tout empire qui tombe, essaie de faire tomber tout le monde avec lui. Si c'est dit, si vous voulez nous faire tomber, alors tous on va couler, et là ça peut aller jusqu'à la Troisième Guerre mondiale. Ou alors, les Américains, je ne sais pas, par un coup de magie, lequel, ils vont garder le monopole. Mais, attention, je viens de dire, je vais dédouaner Trump un tout petit peu. Les démocrates et mondialistes, on connaît quel est leur projet. C'est eux qui portent le projet de la dépopulation. Et comment s'est fait la dépopulation? C'est mieux encore, comme je me l'ai dit toujours, mieux encore quelqu'un qui me dit je ne veux pas de toi chez moi, parce qu'ils sont un peu racistes.
Je te qualifie de merde.
Ouais, reste chez merde, moi. Mais moi je vais survivre.
Je t'appelle pas de vaccin
qui vous extermine. Hein. Que quelqu'un qui dit, mais bon voilà, je vous aime beaucoup et on va essayer de faire quelque chose. Entre temps, il arme des gens en désordre pour venir faire la guerre. Il amène une politique de dépopulation. Il me dit que moi, Joseph, je peux dire désormais que je deviens une femme. Et il veut que cette politique-là soit indexée aux politiques de financement. Voyez ce qui s'est passé en Ouganda. Oh, Banque mondiale, si vous ne faites pas ça, si vous faites passer telle loi, alors vous n'aurez pas ceci. Non, je ne veux pas vivre dans ce monde-là.
Vous n'aurez pas ceci. Si vous n'acceptez pas l'homosexualité, tel projet ne sera pas
financé. Ou ça. Moi, je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Je préfère quelqu'un qui m'injurie, mais je reste chez moi, il reste chez lui, et il m'appelle à ma responsabilité, et ainsi de suite. Donc, résumé, je crois que nous avons une fenêtre de tir, le 4 ans. Parce que je ne pense pas que Bill Gates et tout le reste aussi, ils vont se retrancher, mais ils ne croisent pas les bras. Ils vont continuer à travailler. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il y avait un agenda 2030. L'agenda 2030. Le président Milei en Argentine, quel que soit ce qu'on a pensé de lui, lui il a dit, nous, vos agendas 2030 là-bas, on n'y est pas. L'agenda objectif 2050, c'était les zéro émissions nettes des CO2. Et comme j'aime le dire, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ces plateaux, aller dans cette logique écologiste, c'est suicider l'Afrique. C'est dire tout, cette fois, on va... C'est comme, vous allez acheter votre corde pour vous pendre et vous mettez toutes les... Et vous pendez, vous et vos enfants. Sans énergie fiable, les pétroles, l'énergie nucléaire et tout le reste, bref, tout ce qui a fait la richesse de ces nations, c'est ces nations qui nous amènent cet écologisme suicidaire là-bas. Si on ne fait pas ce qu'ils ont fait pour devenir riches, nous on sera très nombreux, des milliards, mais sans tout à coup là, Nanjo, ça sera un cannibalisme parce qu'on, je ne sais pas dans quelle... C'est donc je préfère qu'on ait un Trump qui dit, eh bon voilà, vous savez ce qu'on va faire, on va utiliser les ressources énergétiques, je lance une course Scramble for Africa, mais aussi celui qui saura survivre, qu'il survive, que ces démocrates là-bas qui nous mènent dans leur agenda. Je souhaiterais donc, moi personnellement, qu'il y ait un autre Trump qui sera après Trump, et qu'entre-temps, nous comme génération, là je m'adresse maintenant aux jeunes qui m'écoutent, notre classe politique a démontré ce qu'elle sait faire, ce qu'elle est. C'est à nous maintenant de savoir que d'ici 2050, nos enfants, dans quel monde ils vont grandir, que... Je répète ce que Macron a dit, c'est des herbivores qui mangent des carnivores qui mangent des herbivores. Cela, si vous voulez qu'on vous demande sa signification économique, financière, démographique et tout le reste, on peut le faire. On n'est pas venu faire un cours ici, mais ce que nous vous prions, c'est de vous engager, de vous approprier votre
Merci
destin.
Beaucoup.
Et de savoir que dans cette lutte, si on ne se donne pas une classe politique, comme tous les co-débatteurs viennent de le dire ici, qui soit à la hauteur des enjeux, alors nous allons vraiment souffrir.
Merci beaucoup, merci Mick. C'est la grande leçon qu'on tire de cette partie de notre émission. La responsabilité nous incombe.
La responsabilité nous incombe. Suffisamment de sérieux pour être à la dynamique des deals internationaux. N'oublions pas que l'Afrique aura à elle seule la moitié de la population mondiale
d'ici 2050.
2100.
2100 plutôt, à la fin du siècle. Ce n'est pas loin.
Ce n'est pas loin.
C'est déjà demain, ne vous en faites pas. Donc, si tel est le cas, donc un quart de la population mondiale, nous l'aurons d'ici 2050, statistiquement parlant. Vous voyez que c'est trop dangereux pour l'avenir de nos enfants. Mais l'important, là où je vais dédouaner Trump, aussi en finissant, Trump n'est pas dans la coopération des partis, COP. Il n'ira pas là-bas, il a refusé ses histoires. COP est pour la diversification de l'énergie. Trump n'est pas dans l'histoire des limitations de la population, parce que de toutes les manières, la démographie sera un atout pour nous.
Oui,
et cette, nous devons user de la dividende démographique pour ne pas trop investir notre jeunesse dans l'alcoolisme, les sapilos, et commencer à orienter notre jeunesse.
Merci Mick. Idée, en nous retenant l'essentiel. Le sérieux à notre niveau.
Oui, le sérieux à notre niveau. C'est dommage que ce soit ma génération qui soit en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne peux le souhaiter à aucune autre génération. Et il faut que nous soyons sérieux, il faut que les Congolais soient sérieux pour affronter ce qui est en train de venir. Si on continue les dialogues de toutes les façons, acceptons ce que nous voulions.
Merci beaucoup, c'est la conséquence logique. Merci à ces auditeurs qui nous ont écoutés à l'extérieur, en dehors de la province Sud Kivu. Il y a Martin Maganoula qui nous a suivis en territoire de Djougou, à 85 km au nord de Bounia, sur le www.radiomandeleo.org. Bon dimanche à vous, chers auditeurs. Merci aux invités. Merci surtout à vous, très chers auditeurs, pour l'attention. Au revoir.
Au revoir.